Podcast.
Bonjour, bonsoir dans ce... Oh là, j'ai la voix qui déraille. Bonjour, bonsoir. Dans ce 73e ou 73e épisode du Roi Steven, parce que oui, on est francophone, mais à l'international. Et bienvenue dans cette deuxième partie de Bazar. Et ce soir, pour en parler, nous sommes quatre. Il y en a deux qui sont rentrés dans le magasin. Nous avons perdu. Saurez-vous les deviner ? Nous avons toujours notre invité Zéphiriel.
Bonsoir. Comment allez-vous? Ça va?
Mais fort bien, et vous?
Bah oui, ça va.
Eh bah, ben, tant mieux. C'est un plaisir de se revoir. Eh ben, il faut dire aux gens.
C'est un plaisir de finir le bazar.
Ah yes. Bah ça, c'est cool.
Vous venez de l'entendre, nous avons Grand Poil. Salut Grand Poil.
Salut.
Ça va?
Oh oui, toujours.
On va plus dire Grand Poil parce que c'est lui qui a fait le résumé.
Bravo Grand Poil.
C'était beaucoup de travail, beaucoup d'abnégation et quelques réunions pas très intéressantes.
Fair enough.
Tu m'étonnes. Et nous avons Dulka. Bonsoir Dulka.
Bonsoir, bonsoir. Avant que tu me le demandes, ça va bien. Je suis contente qu'on reprenne Bazar. Et toi, Juju? Okay.
Eh ben, Juju va bien. Juju est aussi content qu'on reprenne Bazar.
Juju va mine.
Ok.
On va pas refaire les...
Ok, t'es vraiment vieille. Voilà.
On a le même âge, trop de balles. Maintenant, c'est avec Péo.
Donc, on se retrouve pour la deuxième partie. Si vous débarquez sur ce podcast et que c'est le premier épisode que vous écoutez, bah, écoutez celui d'avant. Un, ça nous fera une écoute en plus. Et deux, bah, vous pourrez raccrocher les wagons. Parce que là, on va parler de Bazar. Enfin, Grand Poil va parler de Bazar. Est-ce que avant qu'on en rentre dedans, on fait un petit avis sur cette deuxième partie?
On peut tout à fait.
Et ben ok, Grand Poil, let's go.
Ok, c'est parti. J'ai adoré cette partie. C'est toute la mise en place. Le rythme s'accélère. On sent que la ville va partir en couille. On sait déjà pourquoi, qui va s'affronter et qui va foutre le bazar. Et c'est l'apothéose. Vraiment, moi, j'adore cette partie. Faire le résumé, c'est très compliqué parce que j'avais juste envie de tourner les pages et de pas m'arrêter pour prendre des notes et faire le résumé. Donc, c'était un peu difficile, mais c'était vraiment une excellente. Encore une fois, une excellente analyse de toutes les. L'analyse, c'est plutôt la première partie. Cette partie, c'est vraiment plutôt les conséquences de tout ce qu'il a mis en place juste avant, de tous ces secrets de la ville, toutes ces manières que les gens ont de ne pas parler entre eux, de ne pas s'avouer la vérité. Donc, excellente lecture. Je suis content.
Zéphiriel, qu'as-tu pensé de cette deuxième partie?
Présentement, elle est un peu loin dans mon esprit, mais j'ai toujours kiffé. Je vais paraphraser Grand Poil, hein. J'adorais tout. Les conséquences sont incroyables. J'ai toujours eu cette. J'ai toujours en mémoire ma première lecture de je ne savais pas comment finir ce bouquin. C'est-à-dire comment, où ça allait mener, comment ça allait être possible de finir quelque chose qui partait autant en couille. Et là, à la relecture, vraiment, l'arc du gamin, donc j'ai oublié le nom là.
Brian
m'a fendu le cœur.
Ah ouais, ah ouais.
Bout en bout. J'en avais pas souvenir à ma première lecture, mais là, vraiment, c'était incroyable de relire ça. Et voir surtout le shift de Gunt dans son humeur, dans sa façon de penser, dans sa façon de parler aux gens. Oh, incroyable. J'ai trop kiffé.
Dulka.
Bah moi, ouais, pareil, ça c'est un de mes bouquins préférés aussi. Et j'aime beaucoup comme ça se met en place tout doucement au début, j'allais dire lentement, mais c'est pas lent, le rythme est très bon. Et comme dit Grand Poil, à partir de la deuxième partie, ça part en vrille de manière magistrale. Et je me rappelais plus à quel point ça partait en vrille. Je me rappelais de comment ça se fritait, mais pas des conséquences finales sur la ville et tout le team à la fin. Et
J'avoue que j'avais un peu oublié aussi que c'était à ce point-là qu'il restait plus rien de la ville, quoi.
Oui, c'est ça. J'avais zappé et je me rappelais plus non plus qui c'est qui survivait au bazar. Et du coup, c'était très agréable de le relire et j'aime beaucoup la fin et j'ai hâte de revoir le film aussi que j'ai complètement zappé.
Mmh. Ah oui. Alors là, on vous prévient, dans cet épisode, on ne fera que la fin du livre. Et on fera encore un autre épisode sur les adaptations, l'impact dans la bibliographie, puis vos questions.
Ouais, ouais. On appelle ça essayer de choper la podcast money.
Non, c'est... Ah, clairement, ça vaut le coup de faire trois épisodes par semaine.
Ouais. Oui, le bazar, mais, en fait, c'est durer plaisir.
Les agendas, on voulait avoir le plus de monde possible et c'est très compliqué, oui. Surtout en cette fin d'année.
Non, mais il y a beaucoup de choses à dire. Enfin, c'est pas talisman, quoi, tu vois. C'est... Il y a non, des non. trucs à dire, là.
Il y a des choses à dire, effectivement.
Moi, j'allais dire, c'est pas certains tomes de la Tour Sombre, mais ça passe aussi.
Tu as le droit d'avoir des avis que personne ne comprend. Hein.
Ah oui. Faut voir. Du mal avec la Tour Sombre aussi, on sait jamais.
Moi et toi, Julien ?
Alors, bien sûr, comme vous, j'adore cette partie où ça... Vraiment, c'est un de ses meilleurs livres pour tout ce qui s'emboîte, cette montée en puissance et cette fin, qui au final est une bonne fin, vu que souvent on dit que King ne sait pas faire des fins. Mmh. Je suis pas d'accord avec ça, mais celle-là est vraiment bonne. Et pour moi, on est vraiment sur les imbrications et tout, on est sur le même niveau que le fléau, quoi. Tous ces personnages qui donnent vie à cette histoire et cette fin, c'est vraiment tout comme. Et j'avais une question, mais on n'y répondra pas là. C'est tout ce qui se... Enfin, donc, Bazar se passe à Castle Rock. Mais tout ce qui se passe aussi à Castle Rock dans les autres romans, c'est avant ou après cet épisode ?
On va demander les minutes.
De mémoire, c'est majoritairement avant.
Oui, majoritairement okay. avant, vu ce qu'il reste de la gueule à la fin.
Je sais que, par exemple, Norris, on le retrouvera dans un roman plus tard. Il sera okay. fait mention de lui dans un roman plus tard, je sais plus lequel exactement, donc ils reviennent à Castle.
Le roman de Chuck.
Peut-être.
La vie de Chuck.
C'est possible. Honnêtement, je ne sais plus du
non,
tout dans
non,
quel.
Non, désolé, c'était une blague. Je pensais que tout le monde l'avait. Mais... Ah. Le roman de
quoi
Chuck Norris.
Celle-là.
Je me suis senti tellement seul.
Ah ouais, ah ouais.
Mettez un commentaire si vous avez ri quand je l'ai dit, parce que franchement, je me sens seul.
Non, non, moi je l'avais, mais Dulka, ton sens de l'humour snob, il en pense quoi de cette blague?
Elle est éculée, mais elle est validée.
Arrêtez, les romans de Chuck, le truc de vie de Chuck, ça a marché de ouf.
Non, non,
il y avait un vrai croisement de blagues entre les.
C'était trop drôle parce que Grand Poil, il était full premier degré. Il se dit, attends, oui. Chuck, j'ai lu, je m'en rappelle
ouais.
pas.
Non, je me rappelle pas. Et en vérifiant, c'est dans Histoire de Lisée et avec Gwendy, il sera mentionné rapidement aussi.
Ah bah c'est deux que j'ai pas okay. lu, c'est ce qui explique cela.
Ouais, t'embêtes pas.
et pour finir, je pense qu'il est top 3 chez moi, bazar.
Wow.
Ah ouais, facile.
Top 1, c'est quoi? C'est Fléau, je t'en.
Bah ouais. oui.
Et après
Et après, c'est une bonne question.
Je connais pas.
Regardez la liste. Mais dans tout ce qu'on a fait, alors c'est pas la Tour Sombre. Qu'est-ce que j'ai vraiment beaucoup aimé lire? Ah bah Joyland. Non, je déconne.
T'as adoré Joyland.
J'ai adoré Joyland.
Arrêtez le Joyland bashing.
J'aime beaucoup Joyland. Non, non, mais je vais en trouver. Je te réponds plus tard pour pas monopoliser.
T'as mis un top 3, mais au hasard.
Ouais.
Je le mets troisième.
Il a le 1 et le 3.
Deuxième.
Mais...
Okay. Exactement. Non.
Tu sais, moi, de mon côté, je sais pas, j'ai pas vraiment un préféré. Hein. Je peux te dire, je pourrais te choisir, on va dire, les 10 préférés. Mais te dire lequel est au-dessus du lot par rapport à tout ça,
si,
je
ah si, mais vraiment. Clairement.
Je pense, moi, j'y arrive pas. Je pense que je mets Cimetière juste devant Bazar.
Cimetière, ouais. Sûr. Elle est bien.
Moi, j'ai un top 3 sans souci. Enfin, je sais pas.
C'est quoi ton
top 3 ?
Vas-y.
Bah...
Fais les questions tout de suite. Les questions des podcasteurs.
Ça, Marche ou Crève et Bazar.
Ça, ah, Marche ou Crève, non.
Ah oui, ça, oui, ouais, ça, putain, c'est dur.
Eh oui, encore,
cela dit, je sais pas lequel est 1 et quel est le 2 entre Marche ou Crève, et ça, chaque fois que j'en lis un, je me dis, ah, c'est celui-là que je préfère, et chaque fois que j'en lis l'autre, ah, bah non, c'est celui-là. Donc voilà.
Ah, Marche ou Crève, tu le relis, tu l'aimes toujours?
Ah oui, toujours.
Aïe, 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 aïe.
Je l'ai relu une dizaine de fois, je continuerai à le relire, je l'adore.
Ok.
Ah, vraiment, je le lis, celui-là.
Et vous? Vous l'avez votre top 3 vite fait? Toi, t'en as grand poil, t'en as oui. pas trop.
Non, top 3, je saurais pas dire. Il y aurait forcément ça et Bazar dedans, parce que c'est ceux que j'ai le plus relu. Et après, je peut-être choisirai un des tomes de la Tour Sombre.
Et toi, Zéphiriel?
Terre Tour Sombre. Magie, Cristal, yeah. La Tour Sombre.
Terre Perdue, le premier, t'as dit?
Non, Terre Perdue.
Ah, Terre Perdue. Je dis
non, c'est pas
que...
C'est pas...
C'est dur.
Westland. Non, mais je mets le cycle entier ouais, ouais. de la Tour Sombre. C'est un top 1, okay. en vrai. Après... Je pense que le fléau arrive bien derrière, quoi. Facile.
Et le fléau, le 3, c'est un peu comme Muse, il divise.
Ta fléau est incroyable. Enfin, vraiment, je crois que ça a été une des appréhensions de lecture que j'avais parce que j'avais vu le téléfilm. Et j'étais tellement plongé de bout en bout que c'est, je l'ai dévoré, quoi. Et je pense qu'entre ça et Bazar, j'ai du mal à me décider, en vrai.
Ok.
Pour excellent choix.
Ouais, ça, j'ai pas la hype comme vous. J'ai plus
su. Bah, je l'ai lu tard, en fait. Je l'ai lu en deux fois. En trois fois presque. Je l'ai vu le téléfilm quand j'étais tout gamin et il m'avait foutu une trouille incroyable. Genre des cauchemars et insomnie pendant je sais pas combien de temps. J'ai essayé de le lire en me disant, j'avais avoir, je sais pas, 12 ou 13 ans, en me disant, bah, je vais démystifier le truc en lisant le bouquin, ça ira mieux. Non.
Ah oui, t'avais vu le téléfilm avant 12 ans. Ah ouais.
Ouais, j'étais très jeune.
Il y a beaucoup de gamins de ma génération qui ont été traumatisés en l'ayant vu avant d'avoir 10 ans même. Ouais,
moi, clairement. Hein.
Complètement. Et donc j'ai jamais pu finir le bouquin parce que j'étais terrorisé et du coup je l'ai relu l'année dernière, quoi. Et j'étais en sueur, hein, y a des passages j'étais pas à l'aise,
ah ouais,
hein. J'étais dans le métro en train de lire et il y a des passages avec Pennywise, j'étais pas à l'aise du tout, hein. Je tentais mon cœur qui était en mode wow, attends. c'était vraiment un traumatisme.
Moi je l'avais lu pour le podcast, je l'avais jamais lu avant et ouais, c'est ce fameux syndrome, tout le monde te dit que c'est bien, que tu lis, tu fais
ouais, malheureusement.
Ouais, quand on te hype trop avant, tu peux toujours sentir une déception, quoi.
Enfin, Insomnie, par exemple.
Mais il est très bien, Insomnie, et j'aime même pas la tour sombre, enfin.
Ah, tu l'as fini ou pas encore?
Encore, j'ai du mal. Il m'en reste un quart du tome
2. Ah, oui. Ouais.
Un quart entier, donc le tome 2, entre guillemets. Là. Il me reste la moitié du tome 2.
Ah, là,
quand on a fini tous les liens avec la tour sombre, tu dis, bah, il reste pas grand chose. Mais bon,
moi j'aime pas.
Quand même d'avoir lu un tour.
Ça peut être les petites araignées là.
Pas encore. Bah, j'en suis là. Je commence à avoir les petits trucs qui apparaissent dans l'insomnie, ouais. Qui commencent à bouffer les gens là. Enfin, à bouffer leurs auras en fait.
Ah non, moi je parle des petites araignées infirmières. Là. On avait lu un truc pour la tour sombre avec des petites araignées.
Non, ça c'est les petites sœurs d'Eluria là. C'est autre chose.
Ah oui, non, mais attends.
Parce qu'en plus, vous
incroyable.
Me dites qu'il y a des araignées dans la tour sombre. Ça a pas du tout.
Non, c'est pas des araignées, c'est plus des cafards ou des
ouais, insectes, c'est des insectes. Des insectes médecins.
Ouais. Qui te soigne.
Alors ils ont beau avoir une blouse blanche, c'est non.
Ah, non, ils ont pas de blouse blanche. C'est les espèces de zombies infirmières.
Ils ont des bonbons, c'était gentil.
Ah bon.
Les vampires infirmières plutôt. C'est des vampires.
Bon, il y a rien qui va dans cette discussion.
Oui, on lance le jungle et puis on part dans le résumé.
Allez, c'est parti.
Let's go.
Septième chapitre. On s'était arrêté. Alan était parti chercher à arrêter Hugh Priest, l'employé de maison. L'employé municipal avec sa queue de rat dégueulasse. Pendant ce temps-là, Henry Beaufort, propriétaire du Mellow Tiger, découvre sa bagnole ruinée. Il se dit qu'il est temps de partir à la chasse au trou du cul et va récupérer le canoncier parfaitement illégal qu'il a dans son bar.
Sa Thunderbird.
Ouais. Frank Jouet, vous savez, notre directeur d'école pédophile, est en train de fracasser la chambre de son ex-complice, George. Il va même jusqu'à souiller ce qui ressemble à une photo de sa mère.
Oh là là, putain.
Ah, vous allez voir, là, il y a
souillé,
plein
de...
C'est pas souillé, c'est... Il fait
pour le dessus, quoi. Il chie sur la photo de sa mère,
voilà.
On peut le dire. Voilà.
Lenny Partridge... Il y a une pensée pour Emric, qui vit un peu la même chose en ce moment avec son...
Il est vrai.
Écoute, s'il y a un portrait de sa mère sur le trajet d'un projectile, ça peut arriver. Donc, Lenny Partridge, le plus vieil habitant de Castle Rock, est au volant d'un taco presque aussi vieux que lui, lorsqu'il se fait carjacker par Hugh Priest, vêtu seulement d'un pantalon et d'un bout de fourrure miteux autour du cou. Jeté sur le bas-côté et blessé, il voit sa voiture antique dévaler la côte pour atteindre un mythique 80 à l'heure. L'adjoint Andy, de son côté, est en route vers chez Hugh. Il croise même le vieux taco de Lenny, mais sans s'apercevoir du changement de conducteur. Et, tellement concentré sur l'arrestation à venir, n'entend pas les gémissements du pauvre vieux sur le bas-côté, un peu plus loin que la maison de Priest. Il sort de son véhicule, l'arme à la main. Au Mellow Tiger, le jeune Billy voit entrer en trompe son patron, l'air dérangé, qui lui demande les clés de sa voiture et sort une boîte en bois fermée par un cadenas. Il arrive à lui faire boire un coup avant qu'il ne poursuive sa croisade personnelle.
L'enchaînement de toutes ces petites actions, elle est incroyable, je trouve. Vraiment, ah, c'est... De... Tu sais plus où donner de la tête. C'est vraiment, il t'en met plein la gueule de putain. Qu'est-ce que... Mais attends, finis ça. Non, attends, finis ça, s'il te plaît. Non, attends, finis ça là plutôt.
ça enchaîne et t'as 3 ou 4 timelines en parallèle réellement par qui chapitre, vont finir par ouais. se rejoindre. Mmh.
Mmh. Incroyable.
Alan est au chantier et le chef lui apprend que Hugh n'est pas venu aujourd'hui et que c'est la fois de trop, il le vire. Alan fait passer le message à ses adjoints par Sheila qu'il peut être considéré armé et dangereux. Avant de repartir, il remarque les ouvriers, en train de décharger des explosifs. Deck, le chef du chantier, lui fait remarquer qu'il était étonné que Buster ait fait ajouter plusieurs caisses à sa commande. Une espèce de sombre prémonition de plus en plus forte prend Alan aux tripes.
Roland. Non, Alan, c'est ça. Ouais.
Oui, pardon, Alan.
Ah mais d'ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais Alan, je le trouve chiant.
Ah bon ?
On va arrêter cette émission. Ah, ouais.
C'est
sérieux.
Il est un peu parfait, j'avoue.
Il a le syndrome de Monsieur Parfait de Stu dans Le Fléau.
Ah.
C'est vrai.
Mais je comprends, Julien, sur ce coup-là.
C'est un chevalier du blanc, il est obligé.
Ouais, ouais.
On aime
les héros avec des failles.
Ah, il a des failles, Alan.
Pas spécialement
ouais,
Roland.
Mais pas des failles morales, quoi. Pas des failles, ma femme est morte dans un accident.
Des faillots, éventuellement. Mais, ouais, je sais pas. Bon, en fait, Alan, il est calme. J'aime bien son calme. En
oui,
fait.
C'est vrai qu'il est calme.
C'est ça. Tu vois, même quand il se prend la tête avec sa femme, enfin sa copine, enfin quand elle se prend la tête avec lui plutôt, il est ultra calme. Il essaye vraiment de juste. Non, mais attends, explique-moi. On va juste discuter. Ça va très bien se passer. Et j'adore son flegme. S'il y a un truc que j'aimerais avoir de ce perso, ça, c'est vraiment son flegme et son analyse permanente.
Ouais, il a le sens des priorités. Et c'est vrai qu'il il est un peu parfait sur ce coup-là, shérif parfait.
C'est génial.
Ouais. Mais
j'ai pas envie de passer une soirée avec Alan. Voilà. Je pense que c'est
chiant. Attends, il te ferait des animaux avec des ombres et ses mains. Là.
T'imagines, le mec, il fait des animaux chinois sur le mur et hop, ça, c'est ma bite. Hop là.
Vous pouvez pas m'entendre soupirer parce que le micro, il coupe les soupirs, mais j'ai soupiré très fort.
Pardon, putain.
Ce sera dans l'épisode. Le vieux Taco se gare devant le bazar des rêves et Hugh en sort affolé. Observé de loin par un vieux fumeur, j'ai noté ça et dans la suite ça ne sert à rien, donc c'est pas grave.
Mais dis-le quand même.
J'y pense au moment où tu le relis et quand t'es en train d'écrire, il y a tellement de détails, tu dis putain, ça va servir à quelque chose. Non, bah non, pas ce coup-ci.
Non. Non, mais c'est marrant, c'est ce petit détail de la ville. Enfin, en fait, je sais pas, la ville, elle a combien 600, 700 habitants ou un truc comme ça, tu vois, 1000 habitants peut-être. Et en fait, on parle d'une quinzaine d'habitants. Et en fait, tout part en couille à cause d'une quinzaine d'habitants. Et en fait, ça veut dire que quand même, il y a des personnes qui restent dans la ville qui ne font rien, en fait, enfin, qui ne participent pas à ce genre de choses. Oui. Et du coup, avoir un mec qui est en train de regarder, en train de fumer sa clope sur un banc et voir un mec sortir avec un fusil de chasse, je me dis, bon, ok, c'est marrant.
C'est ça, les États-Unis.
Ouais, puis c'est la ville qui vit aussi, même si, comme tu dis, ça part en couille à cause de... Ouais, plus que 20 personnes, parce que quand même, les protestants et les catholiques, voilà.
C'est vrai.
Mais c'est vrai, c'est une petite ville qui vit, et puis ouais, à l'américaine, quoi. Il y a un mec qui vient de sortir avec un fusil scié. Ouais. Ouais, ok.
C'est génial.
C'est un mardi.
Voilà.
Donc, l'élan de l'accueil, il est au courant de la situation avec Henri Beaufort. Il lui suggère de lui régler son cas, et pour ça, il va lui offrir un automatique tout neuf et chargé. Priest accepte avec joie et repart comme il est venu, que de renard mité sur l'épaule. Alors que Leland éclate de rire à cette perspective, de la fumée lui sort des oreilles, des cheveux, des narines et d'entre ses dents de traviole. Là, on repart vraiment... Enfin, je crois que c'est la première réelle manifestation de pur démon qu'on a de Leland Gaunt à ce moment-là.
J'aime bien comme c'est grotesque à chaque fois, le côté démon, c'est très, très caricatural, mais très efficace. Il est grotesque, mais il est efficace.
Ouais, en fait, il remplit toutes les caractéristiques du démon que tu aimerais avoir dans ta ville. De bah oui, voilà, c'est ça. C'est exactement. Je le reconnaîtrai.
Les yeux rouges.
Mais ça marche.
Les griffes, les ongles jaunes, les ratiches de traviole mais bien pointues.
Ouais. Les yeux qui changent.
Aussi.
D'ailleurs, il y a un moment, je sais plus si je l'ai gardé l'expression pas, mais il parle de ses dents comme arrangées comme des pierres tombales. Genre vraiment de traviole.
Ça, ouais.
Les Américains pour le coup.
Ils ont une haleine de cimetière aussi.
Il y a moyen, putain.
On passe à l'adjoint Lapointe qui se... Alors, j'ai marqué qui se pointe. Tout excité au poste de police. C'est pas tous les jours qu'on a un suspect armé et dangereux à Castle Rock. Mais il est accueilli par un Lester Pratt en colère, brandissant son portefeuille, et qui le surprend en le jetant au sol, prêt à le dérouiller sous l'œil abasourdi de Sheila. Au Mellow Tiger, discuter et boire un coup fait redescendre la pression de Beaufort, qui se dit qu'il va laisser Alan gérer la situation. Au dehors, il aperçoit le vieux taco de Lenny se garer devant le bar. Il est étonné de le voir là. Au poste, John Lapointe reçoit un énorme poing dans la gueule et sa figure craque.
Ah oui, putain.
Sheila se précipite pour rappeler Alan. Frank a fini ses petites affaires chez George, mais il réfléchit enfin. Son complice va sûrement penser à lui, et vaudrait mieux ne pas laisser le témoin. Il sait que celui-ci a une armoire à fusil en bas et décide de se servir. Il est interrompu par le perroquet de George, qui l'embroche avec un couteau de cuisine avant de se poser dans le canapé du séjour, avec un fusil prélevé dans le râtelier de son pote. Malheureusement, il sent le sommeil le gagner, et plutôt que de faire une chose sensée, il se couche derrière le canapé et s'endort sur la moquette. Vraiment, ce passage, moi, ce personnage, il est... Enfin, je sais même pas, il est tellement caricaturé, il est tellement con, tellement jeté que...
Ouais, en vrai, il est, c'est pas si idiot que ça, parce que se cacher en dormant, quoi. Tu vois, enfin, quitte à taper une sieste, autant le taper, mais à te cacher, quoi.
Ouais, mais derrière le canapé, je sais pas, trouver un placard, trouver derrière le canapé.
Bah surtout quand tu vois ce qui arrive après, tu te dis, mais quel trou du cul. À deux doigts du Darwin Award, quoi.
Ouais. On va y arriver. Alan entend la voix de Sheila hurler à la radio que quelqu'un est en train de tabasser la pointe. Il pense tout de suite à Priest et file en branchant le gyrophare. Chez Priest, justement, l'adjoint Clutterbuck, putain, c'est non.
C'est incroyable.
S'arrête avant de rentrer en constatant que tous les pneus sont crevés et il aperçoit enfin le vieux Lenny blessé sur le bord de la route. Il apprend comme ça que Priest lui a volé sa voiture et il doit en avertir Alan. Mais Sheila est injoignable.
Alors il lui apprend avec beaucoup de sarcasme.
Ouais, oui, oui. Bah oui,
Ah non, il passe l'adjoint est pas très mal. Connard. Bah oui, il m'a volé ma caisse.
Bah oui, enfin, je suis blessé, putain.
Le mec qui me parle comme ça, je laisse là. Hein. Ouais, fallait tenir ta langue, gars. Hein. C'est pas moi qui est par terre, non.
Alors l'adjoint en face, il pose quand même des... C'est un peu Captain Obvious... Il pose vraiment des questions très très cons. Donc il rebrousse chemin pour téléphoner de chez Priest. Alors que Beaufort essaie lui aussi de joindre le shérif, il entend claquer une détonation dehors, suivi du jeune Billy qui rentre en titubant la voix étrange. Il s'effondre sur le sol et Nombre le suit. « Hello Henry !» dit Hugh Priest. La pointe continue à se faire tabasser, réussit à rendre quelques coups pendant que Sheila se précipite récupérer un fusil. Elle les met en joue et demande à la pointe de s'écarter, mais Lester, les yeux fous, ne le lâche pas. Alors qu'Alan approche du poste, il est soulagé d'apercevoir la coccinelle de Norris, lui-même au volant. Enfin, un soulagement de courte durée, car d'une contre-allée surgit la Cadillac de Buster, qui fonce et renverse la coccinelle. L'escalade.
C'est ouf, ouais, chaque scène est encore une step au-dessus de... Attends, c'est encore pire qu'avant, quoi.
Ouais, puis chaque truc fait que... Enfin, tout va amener Alan au bon endroit, tout va l'empêcher de se concentrer sur les Landes et compagnie, enfin vraiment.
Le cas, ouais, l'anti-cas, je veux dire.
Le maire en sort. Le maire en sort avec un sourire sinistre aux lèvres. Alan prend le pas de course. Priest ouvre le feu et touche Henry, qui peut se planquer malgré tout derrière le bar. Cela lui donne le temps de sortir son canoncier et il espère avoir un élément de surprise sur Priest. Sheila, voyant qu'elle n'aura pas une ligne de tir dégagée, prend le fusil à l'envers et file un coup de crosse magistral à Lester qu'il prend entre les deux yeux dans un sinistre craquement. Ah, putain, il est mort avant de toucher le sol.
Elle a mis tout son petit
rappelons qu'il était baptiste et qu'il tabassait un cateau, ça pourrait avoir son importance plus tard. En fait, non, c'était pas le cas. Pas ce coup-ci. Alan arrive à intercepter Buster et à le menotter à sa propre voiture avant que ça ne puisse dégénérer complètement.
Alors, du coup, je me rappelle de Buster et de comment ça finit avec... Oh là, c'est horrible.
Ouais. Norris, l'œil un peu fou, se rapproche et en profite pour coller une mandale à Homer en contrepartie du piège à rat. Si vous souvenez, dans l'épisode précédent, il s'était fait écraser les doigts. Alan le retient car ils ont un plus gros problème à l'intérieur du poste, d'où, à ce moment-là, sort un hurlement. Priest est à l'intérieur, selon lui, complètement fou. Il donne son arme de service à Norris, préférant garder les mains libres. au Tiger. Faudrait pas qu'on finisse une histoire d'un coup.
Bah non, c'est trop simple.
Andri,
en vrai, c'est mieux pour le suspense, tu vois.
Ah bah oui. Ah,
oui, complètement. Tu sais pas. Sinon, ce serait des nouvelles à la chaîne, quoi.
Ouais.
Oui, c'est ça.
Ah bah là, ouais, tu pourrais, ouais. Au Tiger, Henri et Hugh se mettent chacun une balle. Bon, celle du canossier a l'air de faire plus de dégâts quand même. Et alors que la conscience essaye de lui échapper, Henri essaye à nouveau d'appeler la police sans succès.
Ah, oh, c'est horrible, Norris... ça,
ouais, et surtout qu'il va pas essayer qu'une fois.
Ouais, et puis c'est à ce moment-là qu'elle lui répond « on est occupé à rappeler plus tard sans écouter » et qu'elle lui raccroche au nez.
C'est juste après qu'il y a juste Norris qui va faire ça, là. C'est ouais, ouais, ouais.
Et c'est horrible, le mec il est en train de canner et « non, plus tard !»
Alan et Norris, justement, se rapprochent du poste de police lorsque quelqu'un sort précipitamment du bâtiment en hurlant. Par réflexe, Norris, et à l'ultime seconde se rendant compte qu'il s'agit... Ah, attends, j'ai raté un truc. Par réflexe, Norris pointe la personne qui sort, et à l'ultime seconde, se rendant compte qu'il s'agit de Sheila, Alan arrive à détourner le coup de feu et réceptionne la pauvre femme tremblante dans ses bras. Mm-hmm. L'écho du coup de feu résonne encore dans ses oreilles, presque comme un coup de téléphone.
Incroyable. Ah mais tu vois, ces petits détails de merde qui font que...
C'est ça.
Ça marche, tu vois.
Franchement, le son qui résonne, qui est en fait le bruit du téléphone, moi je trouve ça...
Ouais, génial. Je sais pas, il y a un truc de... En vrai, moi je me retranscris bien la situation de... Oui, en fait, t'as les oreilles bouchées, t'as pas l'impression que quelque chose est en train... Mais ça sonne quelque part, effectivement. C'est marrant. Mm.
Ça ajoute une petite couche au désespoir de Henri Beaufort qui est en train de perdre ses forces en essayant de joindre les flics. Il prie pour qu'il décroche. Alan obtient de Sheila qu'elle a assommé Hugh et qu'il n'y a plus de danger au poste. On ne sait pas comment on lui a fait avouer ça. Les deux flics entrent dans le bâtiment et font un plaquage à la forme chancelante qui s'approche d'eux. Pauvre la pointe, c'est pas son jour. Ah. Il est dans un sacré état. Lester ne l'a pas raté et Alan se rend compte que les téléphones du commissariat sonnent bien et il envoie Norris répondre. C'est là justement qu'il gueule un grand coup qu'ils ont plus urgent et qu'il raccroche sans attendre de réponse. Beaufort de son côté n'en revient pas et s'effondre haletant sur le sol.
L'horreur.
Alan retourne enfin le corps et se rend compte qu'il ne s'agit pas de Hugh Priest sans réussir à identifier le visage sévèrement ravagé. Je sais pas le coup de crosse qu'elle lui a mis dans la gueule, mais pour que vraiment... Il nous explique que limite le nez est enfoncé dans la face, enfin...
Ah, l'énergie du désespoir.
Ouais, je pense que rien que le sang qui peinture le visage, tu dois pas complètement reconnaître la personne, quoi.
Ouais.
À la carrure, peut-être, mais... Parce que c'était quand même une baraque, le monsieur.
Prof de gym. Prof de gym, hein.
Buster oui. A passé... De quoi?
Il était prof de gym.
Et contrairement à monsieur Mégot, il avait une certaine forme.
Buster a passé tout ce temps menotté à sa Cadillac sous les regards de tous ses persécuteurs, tous ses yeux qui le regardent. Sa folie monte d'un cran. Toute la ville a l'air là à le regarder. Toute sauf Gaunt qui lui est directement dans son crâne à lui dire ce qu'il doit faire ensuite. Et cela fait sourire Danforth. Un livreur de bière arrive au Mellow Tiger et remarque enfin le pauvre Henri Beaufort, moribond derrière son bar.
Moribond.
La pointe annonce à Alan que c'est Lester frappe le prof de FF. Le shérif est perdu. Il ne comprend pas où est Hugh ou son autre adjoint. George est enfin rentré chez lui pour constater le désastre, sa chambre retournée, $2000 de coke partie aux chiottes et son pauvre perroquet décédé.
Son pauvre perroquet, c'est vraiment la goutte d'eau, quoi.
c'est
la goutte d'eau, c'est le caca, pardon.
En bas, Frank Jouette roupit toujours derrière son canapé. J'adore ces détails. Buster, de son côté, tente une évasion inversée en se faufilant par la fenêtre de sa voiture. Un des passants essaie d'intervenir car il est en état d'arrestation, mais se prend un gros coup de latte en récompense. L'épaule de Buster craque bizarrement, mais il arrive à s'installer au volant de la Cadillac et à partir en trombe en écrasant en passage la main du passant. Frank est réveillé par les hurlements de son ami George, qui crie le nom de son perroquet mort. Le temps qu'il se décide à agir, George s'effondre sur le canapé, bloquant Frank qui va manquer d'y passer, asphyxié, pendant que son pote passe un coup de fil à son dealer pour lui expliquer la situation.
Ça, c'est un beau Darwin Award en vrai. Si
ça, franchement, ça aurait mérité d'aller au bout. Le dealer n'a pas l'air compatissant, mais il lui donne le nom et l'adresse de quelqu'un qui pourrait l'aider. Leland Gaunt. Tiens. Uh-huh. George finit par se lever et quitte son domicile. Et c'est un Frank Jouet en sale état, à bout de souffle, qui s'échappe de derrière le canapé. Il se promet de retrouver George dans une petite ville comme Castle Rock. Ce ne sera pas bien difficile. On n'en avait pas encore parlé, mais Sean Rusk, le petit frère de Brian, est très inquiet pour son grand frère. Son comportement a changé. Son obsession pour cette vieille carte de baseball écornée, incompréhensible. Il l'observe se rendre dans leur garage. Il veut en parler à sa mère, mais elle l'envoie bouler, trop occupée à s'en payer une bonne tranche avec les lunettes de soleil. Sean se précipite dans le garage. Ah, c'est tout ce passage est horrible. Sean se précipite dans le garage et il trouve son frère avec une carabine dans les mains, le canon dirigé vers sa tête. Paniqué, il ne comprend pas. Et Brian, pendant ce temps-là, lui fait promettre qu'il n'ira jamais au bazar des rêves. C'est un endroit empoisonné et Gaunt un empoisonneur. Alors que Sean essaye à nouveau de le convaincre, Brian se tire une balle dans la tête alors que Sean hurle à côté de lui.
Alors... je sais pas ce qu'il a fait. Enfin, l'image est violente. En fait, j'essaie de me rendre compte de King qui est en train d'écrire ça et qui est en train de se dire « Ok, c'est bien. C'est, une bonne, c'est une bonne histoire.
Ah, » Castle Rock, c'est vraiment une histoire d'une ville américaine avec tous ses travers et tu partiras en couille jusqu'à ce que...
Non, mais le gamin qui se va, tu vois, d'écrire le fait de...
Oh, il a écrit pire que ça, mais oui, c'est...
Non, mais c'est jusqu'à décrire le Sean qui prend une flaque de sang sur la,
oui,
sur
voilà,
la tronche
ouais,
avec, au moment où la tête de son frère explose. Enfin,
c'est la cerise sur le pompon. Ah. Façon Steve.
Ah, c'est incroyable, quoi.
Leland Gaunt a l'air encore plus satisfait que d'habitude lorsqu'il perçoit la détonation, et il en profite pour mettre en place un nouveau panneau, fermé jusqu'à nouvel avis. 18e chapitre. Pendant le déroulement de tous ces événements, Polly Chalmers est à la ferme Cambers pour réaliser la petite mission pour Gaunt. Il s'agit d'un tour pour envers Ace Merrill. Ça ne l'empêche pas de ruminer la dernière conversation qu'elle a eue avec Adam et son désir de rompre tout lien avec lui. Il l'a trahi. Mais, en attendant, elle n'a pas le choix, elle doit obéir à Gaunt pour que Laska, son pendentif, ne meure pas et qu'elle ne retombe pas dans d'atroces souffrances. On ajoute quelques refs au fait que c'est dans la cour de cette ferme qu'un jeune garçon et le shérif Bannerman sont morts lors des événements de Cujo.
Tiens.
Ah oui, Cujo, ça.
Elle trouve l'appel là où Leland lui avait dit qu'elle serait. Elle se demande toujours ce qu'elle fait là, mais au fond d'elle, elle le sait. Elle doit payer Leland. Elle aurait pu abandonner Laska si Alan l'avait soutenue et n'avait pas fouillé dans son passé. Et là, j'ai rajouté saloperie de Gaunt.
Ah, il est trop fort. Trop fort. C'est vraiment le manipulateur parfait, quoi.
Ouais, mais il a des failles et ça, c'est cool aussi.
Oui, heureusement.
Heureusement,
ouais. Il est pas parfait.
Mais oui, il est assez parfait dans son art, le monsieur.
En suivant ses indications, elle déterre une vieille boîte en ferraille qui contient des timbres publicitaires et des photos zoophiles.
Putain, j'aime bien le détail.
Le petit détail qui tue.
On s'en fout, en fait, mais non, fallait le mettre.
Ben ouais, il fallait que ce soit dit. Elle récupère le tout et met à la place une enveloppe destinée à l'intrépide chasseur de trésors. Elle rebouche le tout, se débarrasse de l'appel et, revenue à sa voiture, fait brûler les photos. Elle croit un instant apercevoir deux points rouges et entendre un grognement sourd en provenant de la grange. Apeurée, elle démarre et s'enfuit de la ferme.
Là, j'avoue, quand je l'avais lu, je m'étais chié dessus parce que Cujo, quand tu l'as dans la tête...
Mais on sait pas ce que c'est, ça, du coup.
Ah, si.
Les yeux rouges, là, pour... ouais. C'est clairement une référence à Cujo.
À Cujo. Même
qui serait, tu crois qui ouais, mais Cujo,
ah, mais sûr et certain.
Oui, il est mort.
Ouais, mais il est mort, il est enterré dans le cimetière et il est pas...
Non, mais c'est vraiment le truc qui hante la ferme parce qu'il y a eu une tragédie et elle est toute seule dans une ferme qui a été abandonnée et d'un coup, t'entends le grondement du chien qui a potentiellement tué tout le monde. Tu fais...
Parce que c'est la ferme où la meuf est enfermée, ça
dans c'est son... la ferme des Cambers.
Elle était coincée dans la bagnole,
ouais. Oui, c'est ça, où la bagnole était coincée, ouais. Ouais. C'est là,
ouais, c'est là. C'est pour ça que quand tu lis ça, tu fais je n'aime pas cette information.
Mais en fait, c'est marrant qu'ils mettent ça. Enfin, qu'est-ce qui fait que... Genre, j'imagine que King, quand il met ça, il veut pas juste faire une easter egg, il veut montrer que l'endroit est aussi maudit.
Ouais,
mais c'est quoi qui fait ça? Est-ce que c'est le pouvoir de Gaunt qui crée cette malédiction, qui la réveille, entre guillemets? Ou est-ce que c'est juste l'endroit qui met...
Ça comme un easter egg, en vrai, juste...
Excusez-moi de faire de la méta, je sais que c'est pas votre truc.
Non,
ici,
non, non, mais Bazar, c'est la fête aux, références. Et oui, pour moi, c'est, celle-là, c'est aussi pour, okay. Pour ceux qui connaissent, ça rajoute un peu plus à l'atmosphère pesante, lourde et à tout ce que les Landes utilisent. Je pense ce qu'il a sur place aussi. Toujours au même moment, on retrouve Ace au réveil, prêt à en découdre après une nuit de fouilles et deux boîtes comme résultat. Il s'envoie une petite ligne de la poudre de Gaunt et se met à réfléchir. Les boîtes contiennent des timbres cadeaux et des rouleaux de pénis blanc en acier donc. Ne sachant trop ce que ça vaut, il appelle un de ses anciens colocs de Shawshank et sur la promesse d'une dose de poudre, arrive à lui tirer l'info qu'il y en a pour $600 de pièces. C'est quand même pas mal. Mais Ace est un peu déçu.
Ah bah oui, il doit pas être 18 000 dollars lui.
Ouais, c'était ça, je crois.
Donc bon, 600...
C'est un petit, une petite goutte.
C'est mieux qu'un coup de poing dans l'œil.
En attendant, sur la carte au trésor, il y a encore plein de croix. Et connaissant bien l'histoire de la ville, il se dit que la ferme Cambers sera sa prochaine cible. Quelle surprise. Et une question toujours, pourquoi son vieil oncle a aussi enterré les timbres cadeaux? Nous ne le saurons jamais, je vous le dis.
Et parce qu'il n'y a rien d'enterré, enfin c'est pas son oncle qui l'a fait. Hein.
On ne sait pas, pour moi les boîtes elles existent quand même, elles ont juste rien, peut-être que son oncle était parti en sucette. Hein.
Mais c'est pas une carte de son ventre, il lit un faux truc. Il lit un livre de. Il livre l'île trésor.
Ouais, mais la carte et les boîtes, tu vois, même Polly, elle a vu la boîte. Pourquoi est-ce que les Landes auraient lui auraient fait mettre des mots dedans celle-là.
Non, mais que font les boîtes là? C'est ça la question.
Ah, oui, bah, les boîtes, là. C'est peut-être juste une boîte vide. Je pense que.
Bah, c'est quelqu'un qui planquait des trucs. Il y avait du porno zoophile. Il y a quelqu'un qui planquait des
ouais,
trucs.
Ouais, ouais, c'est marrant, vrai. Ouais. La question, elle
est. Je pense qu'il y avait quelque chose, hein. Sinon, je te dis, pour moi, il n'aurait pas besoin de demander à Polly d'aller poser quelque chose, d'aller poser un mot dedans.
Je suis sûr que c'est Gaunt qui l'a fait dans un ancien temps en se disant « Hey
Préparation !» T'as vu qu'il arrête pas de poser des trucs où il y a qui ont l'air d'avoir été posés là depuis 6 ans parce qu'il y a une couche de poussière dessus, qui sait.
Danforth, le maire, arrive chez lui, toujours menotté à sa voiture, sa parano grandissante. Tout le monde et même tous les objets lui veulent du mal. Même sa télécommande de garage. Arrivé chez lui, mais les outils sont hors d'atteinte et il se met à klaxonner comme un fou. Myrtle, sa femme, qui se reposait après son escapade éprouvante pour les nerfs à la demande de Gaunt.
Avec sa petite poupée.
elle a déposé une boîte qui fait tic-tac et une lettre adressée à la putain papiste. Et réveillée par le klaxon. Elle a le temps de se souvenir avoir croisé une deuxième femme sortant de la partie homme de cette église avec le même regard coupable qu'elle. Elles se sont immédiatement reconnues comme en mission pour Gaunt. Myrtle donc descend au garage pour y trouver son mari menotté à la voiture. Sous ses jurons et menaces, il lui demande des outils. Ne comprenant pas sa demande, elle se rapproche et Buster l'attrape par les cheveux, la bloquant, la frappant et la blessant. Oh,
putain, la violence, c'est ça.
Ah mais terrible.
Horrible.
Oui.
Là, l'escalade est totale.
Ah, mais c'est plus l'escalade, il est parti en orbite, le mec.
C'est de la 7C.
La quoi?
Quoi?
Les pistes en escalade?
Ah, la 7C.
Ah, j'ai entendu de la CNC. Hein, qu'est-ce qu'il dit?
C'est terrible.
C'est marrant, ouais. Okay. Ce gradation d'escalade dans mon club d'escalade, c'est pas ça. C'est pas ça, je comprends pas. Moi, j'ai des voies bleues, j'ai des voies vertes, j'ai des voies.
Je sais pas comment ça marche.
Tu peux continuer.
Je ne saurais vous dire. Très bien. Elle arrive enfin à prendre les outils demandés et il se libère. Il l'accuse de son côté de l'avoir entraîné loin de la maison le jour où Norris aurait apposé toutes les contraventions. Il inverse tous les événements au comble de sa parano. Myrtle, terrifiée, promet que non, Buster, elle n'a pas couché avec lui. Dès qu'elle prononce Buster, un fusil saute dans son oreille. Ah oui, et alors qu'il referme la porte du garage, il s'attaque à sa femme avec un marteau et tournevis.
À l'horreur.
Non mais c'est horrible, horrible. Puis le bruit, t'as même le bruit que ça fait.
Oui. Tu l'entends en fait, tu le lis en tu l'entends, c'est horrible.
Détail. Toujours efficace. Ace arrive à la ferme Cambers, en plein trip cocaïné, s'imaginant déjà riche à millions. Il déterre la première croix, trouve la boîte en ferraille, mais à nouveau elle ne contient que des timbres cadeaux expirés. Mais heureusement, il y a une deuxième croix derrière la croix. Derrière la grange. Bien sûr, ce n'était qu'un leurre, se dit-il. Et donc, il poursuit sa route. En chemin, il se prend les pieds dans une pelle avec encore des traces de terre fraîche dessus. Ce n'est plus en marchant, mais en courant, qu'Ace arrive au lieu du trésor et voit le trou fraîchement rebouché. Il déterre avec ses mains la boîte en ferraille et ouvre la lettre. Il s'agit d'un mot d'Alan Pangborn qui lui explique qu'il a chopé le magot du vieux Merrill après sa mort et qu'il lui a exactement, lui a laissé exactement la part qu'il méritait, un billet d'un dollar.
Oh, le fils de...
Vraiment,
c'est le couteau
dans la plaie, juste au l'endroit comme il faut, quoi.
C'est les gens qui ont des augmentations de 0,2%. C'est ça.
T'as eu ce que tu méritais. Ace est fou de rage et se précipite à sa voiture en ruminant ce qu'il fera subir à Alan, notamment la rencontre d'un canif, ses couilles et le billet. Troisième partie, tout doit disparaître. 19e chapitre. On est toujours dans la même journée. Hein. Il est 17h45 à Castle Rock. Le crépuscule s'abat bientôt. Des nuages noirs s'approchent de la ville. Main Street est occupée d'un côté par les camions de la presse et télé venus rapporter le déchaînement de violence, et de l'autre côté par des voitures de police bloquant l'accès à la scène de crime.
Mais ils seront pas déçus.
Une foule immense de passants est sur les lieux, le regard attiré par la scène. Et personne ne remarque que régulièrement, des personnes s'approchent du bazar, soi-disant fermées, et pour la plupart font un détour vers l'arrière de la boutique.
C'est les gens, ils reviennent avec une arme à feu, et ils aussi,
on s'en
Amérique sur 20.
Là, les attend Leland Gaunt, tout heureux des affaires courantes. Heureux de satisfaire les désirs de colère des habitants de Castle Rock. Ils sont tous là pour ça, et chacun se voit remettre un automatique contre un paiement modique. Uniquement ce qu'ils peuvent se permettre. Il a une éthique financière, Leland, il faut pas l'oublier. Alors que Gaunt se remémore sa longue vie de colporteur, aboutissant à tous les âges à cet instant fatidique, ce moment où il n'a plus d'objets fantastiques à vendre, mais juste des armes, et les gens sont toujours là pour les acheter.
Ah, c'est ouf, c'est là où il se rappelle son passé, quand il était, vendeur de chameaux, je sais plus quoi.
C'est ça, il passe à Rome, il passe dans plein de petites villes.
Enfin, c'est incroyable, vraiment, c'est, ce truc, il y a un truc ultra magique de... je sais pas comment expliquer ça, en fait, il fait partie de toutes les légendes urbaines, tu vois.
C'est vraiment le
truc de... je vois.
C'est trop fort, je crois.
Alan n'est plus à Castle Rock, il est à l'hôpital de Brighton dans l'attente du réveil du jeune Sean Rusk. Il arrive difficilement à convaincre l'infirmière de le prévenir dès qu'il sera réveillé. Alan est sur le cul, sa ville est en train d'exploser et lui est sur le banc de touche car les affaires de meurtre sont pour la police d'État. On a un récap de tous les morts et blessés de la journée. Ne laissant que la pointe, le vieux Lenny et le pauvre Sean. Alan essaie de trouver des connexions qui lui permettraient de comprendre cette escalade. Il appelle son adjoint Clutterbuck pour en discuter avec lui et apprendre de nouvelles choses. Buster est toujours en fuite après avoir tué sa femme à coups de marteau. On a retrouvé un mot à côté de la voiture abîmée de Beaufort et Norris a aussi disparu. Toutes les personnes qu'il a pu rencontrer depuis cet enchaînement d'événements ont des réactions Toutes les personnes qu'il a pu rencontrer depuis cet enchaînement d'événements ont des réactions étranges. La mère de Brian avait l'air de ne pas réagir à la mort de son fils, ou en tout cas de mal faire semblant. Norris avait ce même regard perdu qu'elle après l'accident de la coccinelle, et il commence même à soupçonner Polly de faire partie de ces gens qui ont des choses à se reprocher. À cette pensée, la bonne collection manque de se faire de peu. Mais bref, il essaie de se rendre utile en dépit de la police d'État, il doit trouver le fin mot pour sauver sa ville.
C'est quoi qu'il détourne de sa réflexion déjà, j'ai oublié.
Non, ce coup-ci, c'est juste qu'elle arrive pas.
Il manque un truc.
Là, il y a pas. D'habitude, il y a des trucs qui interrompent ses pensées. Là, non, juste, il sent qu'il y a quelque chose qu'il est sur le bout de la langue, mais il n'est pas sorti. Polly est chez elle, sur son lit, ruminant aussi la situation, la trahison d'Alan, mais aussi sur l'Aska qui paraît être de plus en plus vivant. De petits grattements s'échappent du collier.
Ça, je me rappelle.
Deux voix contradictoires s'affrontent en elle.
C'est le truc qui me dérangeait le plus dans le livre. Ouais. À la sensation d'avoir cette ambre là, ce talisman avec un truc qui bouge dedans, mais horrible.
Oui, ouais. Je suis d'accord.
des petits frissons, des petits. Ce petit grattement, c'est comme la craie sur le tableau, sur le tableau.
Par contre, Dulca, il faut que tu arrêtes d'être tout le temps d'accord avec moi, c'est un peu trop.
Oui, c'est un peu flippant aujourd'hui.
On est d'accord.
Oui, ça va pas du tout. Je vais me rattraper.
Si vous êtes d'accord sur ça, c'est cool.
Donc, ses devoirs. Il y a d'abord celle de sa tante Evie, la voix de la raison qui essaie de la pousser à parler à Alan et à se débarrasser du collier. Et l'autre voix, la sienne ou celle de Gaunt, qui au contraire lui dit qu'elle ne mérite pas ce qui lui arrive et doit continuer sur cette voie. Polly a peur. de la douleur, de Laska lui-même, mais avant tout de Gaunt. Et si jamais elle n'avait pas fini de payer le collier? Finalement, elle se ligue contre la voix de Tante Evie, qui lui dit qu'elle méritera ce qui va lui arriver devant cet entêtement. Il est 6h20, et la police d'État ne gère pas bien sa conférence de presse. Peyton regrette de ne pas avoir écouté Alan et d'avoir refusé son aide. Il ne connaît pas bien la ville et ses habitants. Il reçoit par contre un coup de fil du médecin légiste qui a accompagné Beaufort. Celui-ci est mort, mais pas directement des blessures par balle. A priori, une substance infectieuse a été déposée sur les munitions et empoisonne les victimes.
Ouais, putain, ça c'est ma boule.
C'est la petite gomme touch.
Le petit truc en plus, là.
Ça me, je vous avais raconté, Crost, ce que c'était, non le...
Moi, je connais déjà le comics, ouais.
Ouais, c'est un comics où les c'est pas un zombie outbreak, mais quasi. Mais juste les mecs deviennent fous et répondent à leurs plus bas instincts. Vraiment, c'est violence pure, cannibalisme, tout. C'est vraiment hardcore, quoi. Et visuellement, c'est assez crado. Et t'as des pôles de survivants humains qui fuient ça ou qui essayent de s'en protéger. Et je me souviens d'une scène où les c'est pas des zombies, donc ils sont quand même doués d'intelligence, ils savent se servir d'armes à feu. Et la moindre goutte de sang ou la moindre goutte de sueur ou de truc peut transformer quelqu'un comme un zombie, en fait. Et les mecs, du coup, prennent des munitions d'armes à feu, se masturbent dessus pour les tremper dans leurs semences et tirent sur les humains. De toute façon, parce que même si les humains soient pas morts, bah en fait, ils se transforment quand même. Je me dis, le niveau de perversité du truc est incroyable. Et ça m'a fait exactement penser à ça quand j'ai lu que Gaunt empoisonnait ses armes. Je me dis, wow, ok, c'est vraiment c'est pervers as fuck, quoi. Le gars, il est touché au pied, il va mourir.
C'est ça, on se contente pas de les faire en sorte qu'ils s'entretuent, on veut être sûr qu'ils vont canner dans la foulée et pas doucement, quoi.
Et il y a une série de Crost qui va sortir, d'ailleurs.
Ah oui?
Ouais, elle est en prod. Crado de ouf.
C'est vraiment très très sale, je sais pas ce qu'ils vont en faire. Bref, le légiste insiste bien sur le fait qu'il faut redoubler de précautions avec l'arme, et Peyton doit la faire mettre sous clé. On retrouve Cora Rusk se dirigeant vers le bazar des rêves. En chemin, elle croise un Danforth Keaton méconnaissable. Après l'interrogatoire des flics qui l'a tenu loin du King, et comme annoncé, elle n'avait aucune conscience de ce qu'il se passait réellement, ne suivant que la voix de Gaunt pour se débarrasser d'eux. Elle a pu profiter à nouveau de sa présence. Mais, à sa grande horreur, son amie Mira était en train de le chevaucher. Et dans cette dispute onirique, Mira casse les lunettes de soleil. C'est donc une Cora particulièrement en colère qui va chercher son dû au bazar. Et c'est un Gaunt tout sourire qui accueille cette Cora toute débraillée. Vous avez vu la flamme? C'est Cora Chatalerée. Si vous avez la ref, tant pis, sinon... Bref, la robe est ouverte à tous les vents. Et il lui propose un pistolet pour calmer sa colère. 20e chapitre. Après son meurtre, comme en transe, Buster va récupérer son jeu en pensant à eux, avec des grosses majuscules. Il doit se libérer. Il passe ensuite 20 minutes sous la douche et se change, retournant à nouveau à son bureau. Et là, il constate avec horreur que Ticket Gagnant a été abîmé. La colère et le désespoir le décident à récupérer son pistolet pour se suicider. Mais, pile à ce moment-là, le téléphone sonne et c'est Gaunt à l'autre bout du fil. Il sait comment le faire revenir sur le droit chemin. Il lui promet que, mais non, Ticket Gagnant est en excellent état. Et c'est vrai. Et qu'il est déçu de ses projets de suicide. Il pense avoir trouvé quelqu'un pour l'aider à les combattre avec des majuscules toujours. Il lui parle même d'une troisième personne dans le même état d'esprit. Buster accepte donc de le suivre jusqu'au bout et tombe en état d'hypnose alors que Leland lui fait des confidences. Les roulements de tonnerre se rapprochent. 5 minutes plus tard, Buster est fraîchement habillé et se dirige vers une camionnette de la télé que Leland semble avoir prévue pour lui. Elle contient une perruque blonde, des lunettes de soleil ainsi qu'une bouteille d'acide qui va lui permettre de se débarrasser de sa menotte encombrante. Il prend la route et 3 minutes plus tard, l'adjoint au shérif découvrira le cadavre de Myrtle. On enchaîne avec Warburton, l'employé municipal, alors c'était un peu l'homme à tout faire du poste de police notamment, qui a une dent contre Sonny Jacket, le garagiste, suite à un incident avec sa Honda. Depuis 2 jours, cette colère a empiré et il veut se venger. Surtout après avoir reçu une photo de Sony en train de boire des coups devant sa voiture calcinée et un mot le traitant de sale négro. On pousse à fond. Là, les potards, hop.
On n'est pas encore dans les baptistes et les chrétiens, quoi.
Non, pas encore. Il a donc obtenu un automatique auprès de Gaunt et se rend dans son garage. Alors, c'est station-service, j'ai marqué garage, mais après, c'est un peu plus clair. Au moment de passer à l'acte, alors qu'il vise la casquette de Sony dépassant derrière un journal, son esprit essaie de lui faire arrêter, mais trop tard. Deux trous bien nets apparaissent, sauf qu'il a abattu le mauvais blanc. Blam, blam, blam! Lui-même prend 3 balles dans le dos de la part de Sony, qui a aussi obtenu un flingue au bazar. La police le retrouvera perdu sans dans ses pensées, caressant son jeu de clés adaptable.
Ah oui, c'est lui.
Ouais.
En jeu de clés adaptable, oui, avec une des tas de trucs rouillés dégueulasses et les flics, ouais, ne comprennent pas ce qui s'est passé.
C'est ça.
Je jugeais le mec qui avait ses outils. En fait, je me disais, ah ouais, le gars, il a fait pour des outils, quoi.
Ah bah, écoute, on a tous des besoins, des aspirations différentes les uns des autres. Buster suit les instructions de Gaunt pour se garer en ville. Quelqu'un doit lui apporter un truc. C'est le moment où il croise la route de Cora Rusk en même temps que des C'est le moment où il croise la route de Cora Rusk en même temps que des détonations près du garage détournent l'attention des flics. Il découvre un sac rempli de minuterie et de pinces croco, et dans son esprit, ça fait tilt. Il se souvient de sa commande d'explosifs et éclate de rire. Voilà qu'on a quelque chose pour eux. Grosse majuscule toujours. Au loin, un éclair vient de se perdre dans la rivière de Castle. Peyton, le flic de la police d'État, vient constater les dégâts à la station de service. Il voit les automatiques ressemblant à ceux empoisonnés. Il cherche une explication auprès de Sony qui délire au sujet de ses clés. Mais avant qu'il puisse poursuivre l'interrogatoire, des coups de feu se font entendre des hauteurs de Castleview. On retrouve, alors c'est Lenore Potter qui pense avoir abattu l'intrus qui défonçait ses parterres de fleurs. Mais en fait, il s'agit de la femme, de la gentille femme de l'adjoint Clutterbuck. Son aura passe du bleu au mauve et continue jusqu'au noir minuit.
Il faut préciser qu'elle l'a abattue. Elle a cru qu'elle avait trouvé la personne qui saccageait ses parterres de fleurs. Elle l'a abattue à bout portant et en fait, c'est...
C'est ça.
C'est Melissa Clutterbuck, la femme de...
Je rappelle que l'aura noire de comment s'appelle le Potter là, c'est une référence. Enfin, il y a la même référence dans Insomnie. Hein.
Ouais, c'est les mêmes couleurs.
Oui, ça m'a fait
l'aura, c'est ça. Hein.
Je me demandais si elle les voyait vraiment ou si c'était juste du bullshit New Age.
Bah, pour le coup, vu que les couleurs sont quand même vraiment très proches, enfin sont les mêmes que dans le roman, je pense qu'elle les voit. Hein. C'est pas impossible.
Elle voit sa propre aura en fait, mais elle voit pas d'autres choses, je pense.
Ok. Je me demandais si c'était une référence, si c'était du bullshit ou...
Bah, Bazar est sorti bien avant Insomnie. Enfin, il faudra voir avec Emily, mais il est sorti bien avant. Et je pense que du coup, Insomnie fait référence à ça. Et c'est juste que ça tombe bien, en fait.
Ok. J'avais pas les dates en tête.
À l'hôpital... fact-checking.
Merci. Ok, vas-y. À l'hôpital, l'infirmière de garde fait comprendre à Alan qu'il va y avoir un trou dans la relève et qu'il va pouvoir en profiter pour discuter avec Sean Rusk. Enfin, un espoir dans cette journée. Le petit Sean est réveillé et assoiffé. Alan l'aide de son mieux et éveille un peu son intérêt avec un tour de magie ou deux. Cela fonctionne mieux qu'avec son frère et lui permet d'avoir une conversation.
Bazar ce passage 92, Insomnie 95. Voilà.
Ah voilà. Ouais, c'est pas okay. C'est bon, du coup.
Il y avait un truc.
On n'était pas à l'abri qu'il y ait deux scripts pas loin les uns des autres qui n'étaient pas terminés.
Ouais.
Totalement.
Donc, ce passage très triste va permettre à Alan de se faire le lien entre les lunettes et Cora, les draps pleins de boue et Brian, et tout l'aspect surnaturel de ces objets. Il comprend qu'il est plus que temps d'aller au bazar. Il quitte Sean alors que celui-ci lui donne un dernier message de Brian. Leland Gaunt n'est pas un homme. Alan quitte l'hôpital et essaye de joindre ses collègues sur la radio sans succès. Basculant vers la police d'État à Oxford, il peut passer le message d'arrêter Leland comme témoin important dans le double meurtre. Le standard lui apprend d'ailleurs aussi qu'une violente tempête s'est déclarée à Castle Rock. Alan met son gyrophare et pousse son vieux break à 120 en direction de sa ville.
Waouh. Un vrai cowboy.
Thug life. Ouais.
On retrouve Ace Merrill alors que lui aussi rentre à Castle Rock. Des envies de meurtre en tête, mais pas de matos. Il va donc aller voir Gaunt pour qui il a justement transporté une de ses caisses d'armes. En chemin, il constate la pagaille policière en ville et croise même George Nelson qui manque de le buter avec un des pistolets de Gaunt. Mais bon, Ace s'en fout, seul Alan lui importe. Leland l'accueille à bras ouverts et lui demande de l'aider à ranger sa table et à fermer la boutique. Le panneau indique maintenant « Je suis vraiment fermé maintenant
». Niquez-vous.
Ace est pressé d'avoir une dose de dope et un flingue pour régler son compte à Alan. Malheureusement, il arrive à mettre Gaunt en colère, et celui-ci, dont on découvre maintenant l'apparence véritable, le tabasse et lui fait passer l'envie de discuter.
C'est quoi, c'est un apparence, c'est un vrai démon, non, c'est un truc comme ça?
Ouais, ça, son visage n'est plus que dents, des yeux et de la fumée diabolique sort de partout. Ouais. Sale, quoi. Sale.
Un vrai diable.
Ouais. Il est tout mignon.
Alors qu'il a toute l'attention d'Ace, il lui demande s'il serait content de rayer la ville de sa carte. De la carte. Se rappelant de sa jeunesse, avec une petite ref à Stand By Me au passage,
oui.
Ace accepte le boulot qu'il va lui confier. Et en échange, Gaunt lui reconfie un paquet de sa poudre blanche.
Quoi la ref à Stand By Me ?
C'est que Ace était un des gamins qui harcelait les gamins de Stand By Me et en fait il s'est pris. Il s'est fait. Comment dire ? Derrière, il s'est fait emmerder lui aussi. Et c'est comme ça qu'il a fini en tôle. Buster constate avec horreur que le compère promis par Gaunt n'est autre qu'Ace Merrill, la terreur de Castle Rock. Mais il est là pour l'aider à le débarrasser d'eux. Ils ont quelques courses à faire au garage municipal pour trouver une utilité à tous ces détonateurs. 21e chapitre. Le révérend William Rose est un bigot papiste baptiste de première catégorie qui a en sainte horreur les catholiques. De son côté, le père Brigham pourrait ignorer les calomnies ridicules des baptistes, mais il n'est pas homme à se laisser faire. Ce début de chapitre nous décrit les tensions grandissantes entre les deux communautés, bataille plutôt feutrée jusqu'à ce début d'octobre et l'organisation de la nuit casino dans l'église. Willie Rose, dont le père était un joueur complètement obsédé ayant fini par se suicider, condamnera auprès de ses ouailles ses festivités païennes. Bien sûr, les deux côtés sont aiguillonnés par les manigos... Bien sûr, les deux côtés sont aiguillonnés par les manigances de Gaunt. Et alors que les dernières réunions d'organisation de la nuit doivent avoir lieu, la communauté prend ses précautions pour que tout se déroule sans accroc. Et en cette dernière nuit, en dépit des meurtres ayant déjà eu lieu, les deux communautés semblent se préparer, voire se réjouir, d'une espèce de guerre sainte.
C'est tellement ça.
Parfait.
Ils sont prêts.
Du sang.
À répondre à l'appel. Ce soir-là, 70 personnes sont réunies à l'église baptiste pour la réunion anti-jeu. Il manque à l'appel le bras droit de Rose, Don Empil. Alors qu'il allait entamer la prière d'ouverture de la réunion, les portes de l'église s'ouvrent en claquant et arrive un Don Empil l'air complètement fou, traînant derrière lui une odeur infâme. Il semble que les catholiques ont attaqué son magasin à la bombe puante et ont pourri toute sa marchandise. Au moment où il montre ses preuves, des tracts signés par les catholiques justement, une petite voix insulte l'assemblée, et la boîte dissimulée dans le cœur arrive au bout de son compte à rebours, et une puanteur insoutenable commence à se répandre dans l'église. Les hostilités commencent. Du côté des catholiques, Babs Miller, armé de sa précieuse boîte à musique, d'un automatique et d'un pied de biche, est en train de suivre les instructions de Gaunt. Elle doit coincer le pied de biche sous la porte au moment où Betsy Vigne lira une lettre qui lui sera adressée dans la salle de réunion. Alors qu'elle atteint sa destination, les premières gouttes de pluie s'écrasent au sol. Dans l'église baptiste, c'est la panique pour fuir la puanteur. Des gens sont blessés pendant la suite et encore plus se retrouvent coincés devant la porte de l'église, bloqués. Piégés dans la puanteur, au moment où la pluie commence à tomber, les premiers vomissements se déclenchent.
Ah là oui, on passait par la fenêtre pour essayer de...
C'est ça.
Après, ouais. Un peu après. Betsy va ouvrir la session d'organisation lorsqu'elle découvre la lettre. Lis ça tout de suite, putain papiste. Et à l'intérieur, une simple phrase. Voilà l'odeur des cons des filles cathos. La petite boîte piégée libère une fumée jaunâtre et une odeur abominable envahit la salle. Pendant qu'à l'extérieur, quelqu'un crie « C'est à cause de la nuit casino, bande de salopes, repentez-vous » Mais elles n'ont pas le temps d'y faire attention. La panique a gagné la pièce. Qu'une des femmes présentes se rompra le cou à l'indifférence de toutes les autres. Chez les hommes cathos, la réunion a démarré en même temps que la tempête, mais est vite interrompue lorsqu'ils entendent les cris des femmes et qu'ils se retrouvent eux-mêmes prisonniers d'une puanteur d'enfer. La porte principale a été bloquée, mais ils arrivent malgré tout à sortir sur le côté, titubant et vomissant. juste à temps pour voir une fenêtre de la salle des femmes exploser et voir des silhouettes vomissantes en sortir. Vraiment, toute cette scène est dégueulasse.
Ouais, l'image, ouais, elle est incroyable.
C'est l'attaque à la bombe puante plus, quoi.
C'est du soufre ou du je sais quoi.
Alors ça va être du soufre très concentré, les ouais. Comme ça, hein, pour que ça déclenche en plus des vomissements derrière. Retour au Baptiste. Pourri. Ouais. Le révérend va être sorti de l'église au travers d'un vitrail et sa sauveuse débloque ensuite les portes en virant les pieds de biche. Le reste des Baptistes peuvent enfin sortir dans un état lamentable et une fureur indicible. Les cathos hommes et femmes se rejoignent sur le parking alors que la pluie tombe à flot. L'info arrive vite que l'attaque vient des Baptistes et ils se décident à aller s'occuper d'eux. Même chose côté Baptiste, qui se dirige vers les cathos, un chant religieux à la bouche sous l'œil médusé d'un trooper de la police d'État. Le trooper, justement, prévient sa hiérarchie. Peyton est perdu et ne comprend plus rien, mais il lui ordonne de se rendre à l'église et de ne pas se faire coincer, il va essayer de lui envoyer du renfort. On retrouve Cora Rusk, petit détail de fin, qui s'introduit par effraction chez son ex-amie Mira, tue son chat avec le flingue de Gaunt et se dirige vers sa chambre. Et c'est le moment de la rencontre finale entre Cato et Baptiste. Les deux foules en délire se rejoignent à mi-chemin et s'écharpent littéralement sous les yeux du trooper qui prendra une balle perdue. Je vous passe les détails, mais on dirait une horde de Left 4 Dead.
Abusé, hein.
Les renforts policiers arrivent, mais ils se retrouvent aussi pris dans la mêlée générale et ça tire de partout. Pas mal de clients de Gaunt étant dans la foule. Du côté de chez Mira Evans, Cora la retrouve en pleine séance masturbatoire avec la photo du King, mais Mira n'est pas surprise, et elle s'entretue avec les armes de Gaunt.
Pouf. Tu tiens
il
bon
a fallu faire un décompte.
Ouais, c'est... 22e chapitre. Alors, on approche de la fin. Sur la route, Alan est obligé de ralentir tellement la tempête gagne en force. Il a fait tous les liens nécessaires avec Gaunt et a décidé de sa destination. Malgré la tempête, des éclats de violence lui parviennent de Castle Hill, alors que le reste de la ville a l'air en désordre, mais déserté. Alors qu'il s'approche du bazar, un nouvel éclair déchire la nuit et toutes les lumières de Castle Rock s'éteignent. Ta-ta-tan. Norris Ridgewick est un homme désespéré. Il se prépare à un nœud coulant et un tabouret branlant. Il a honte de ce qu'il a fait et des conséquences que son acte a eues. Il ne se sent pas capable de continuer à payer Gaunt. Et justement, celui-ci est là dans sa tête. Enragé que Norris lui résiste. Pour le torturer, il lui révèle que sa canne à pêche chérie n'est qu'un vulgaire bambou miteux. Un soupçon de convoitise refait surface en Norris, mais il bascule et le nœud se resserre. Il arrive malgré tout à conserver un peu de mou et en dépit des insultes de la voix de Gaunt, arrive à se décrocher. Furieux, il brise le bourbou en multiples morceaux et est bien décidé à faire sa fête à l'élan de Gaunt. C'est dans cet état qu'il monte...
Je suis interrompu deux secondes, il me semblait que c'était pas la voix de Gaunt dans sa tête, justement, c'était sa voix à lui en mode espèce de tocard, tu te rends pas compte que t'as un bambou depuis le début et en gros il reprend ses esprits.
Pour moi c'est clairement Gaunt qui le titille à chaque fois en disant...
Mais quel intérêt il aurait à lui dire que ça, je t'ai... Enfin... Non, c'est pas plutôt son instinct de survie qui vient et qui lui dit...
Ouais, je suis assez d'accord avec ça. Hein.
Il me semble que c'est ça, parce que Gaunt, lui, tout son intérêt, c'est de que les gens croient encore à l'illusion jusqu'au bout et qu'ils se donnent pour lui et pour payer ses trucs.
Ouais, quoi. Mais comme là, il sent que Norris est en train de lui échapper, il veut essayer de refaire... Pour moi, il essaie de faire remonter à la surface son envie, sa convoitise en lui montrant un peu comme il a fait avec Buster juste avant, avec son jeu cassé. Et en fait, regarde, mais non. Il est toujours là.
Bah écoute, je suis sur le chapitre en question et je... Une voix nouvelle s'éleva dans sa tête. C'est pas Gaunt. Pour moi, c'est vraiment son instinct de survie en mode regarde ce que t'as fait, regarde bien ta canne à pêche avant de canner et essaye de rattraper les choses, espèce de tocard.
C'est pas votre son père, comme ça d'ailleurs.
Non, il s'est écrit une voix nouvelle s'éleva dans sa tête.
Ok. En tout cas, effectivement, il brise l'illusion et il arrive à conserver son.
Oui, voilà, c'est pour ça que c'est plus logique. C'est plus logique que ce soit son instinct de survie qui kick plutôt qu'un énième tease de Gaunt. Putain, je parle à moitié en anglais, je me déteste, je suis désolé.
Oh là, les gens sont qui font du franglais. Hein.
Excuse.
En tout cas, merci pour la correction. Furieux donc, il brise le bambou en multiples morceaux et est bien décidé à faire sa fête à Leyland. C'est dans cet état qu'il monte dans sa voiture de patrouille et affronte la tempête pour aller aussi vite que possible au bazar. Polly est en train de rêver qu'elle se rend au bazar, mais c'est sa tante Evie qui l'accueille en l'appelant Mademoiselle Denon. On dirait par contre une vieille quincaillerie et sa tante l'aiguille à repenser à San Francisco. Elle lui montre le tonique qui la soigne, mais qu'il déplace l'arthrite vers son cœur et son âme. Elle est en train de tout perdre. Polly est réveillée par un éclair de tempête, et la voix de tante Evie continue à l'appeler Mademoiselle Denon. Ce qui, à force de répétition, lui fait vérifier la lettre de l'aide sociale. Dessus, c'est le mauvais nom qui est écrit. Elle n'a jamais été Patricia Chalmers pour eux, toujours Polly, et l'adresse aurait dû être celle de ses parents. Elle comprend que son amour-propre l'a aveuglée, l'a poussée à rejeter Alan plutôt que de lui parler de Kelton. La voix de Gaunt est furieuse et Polly, se rebellant finalement, décroche l'Aska et le jette par terre. L'amulette se brise et une araignée immonde en sort, grandissant au fur et à mesure qu'elle s'échappe, bien engraissée par la douleur de Polly.
Le mini Pennywise.
Ouais, sauf que c'est là que je me, oui, c'est là que je me suis dit, je vais passer les pages en fait.
Ah là là, c'est incroyable.
Je fais vite. S'ensuit une course-poursuite et une bagarre dans la salle de bain où l'araignée finit dans la baignoire. De la taille d'un chien, elle prend son élan et se prépare à attaquer. Allez. On retrouve Ace et Buster qui deviennent copains comme cochons en train de récupérer les explosifs. Ace a fait découvrir les joies de la poudre à Danforth et s'est bien défoncé qu'il se retrouve sous le pont de Castle Rock installant des explosifs. On nous dit que c'est 7 minutes avant le passage d'Alan par le même chemin et le minuteur indique le chiffre 30. Bras dessous, les deux copains remontent en ville pour déposer leur colis piégé un peu partout. Ils croisent même Alan peu de temps après l'immense éclair qui coupe l'électricité de Castle Rock. Ravi de cette nouvelle, Buster propose d'aller faire sauter le bâtiment municipal plein de flics. Alan se gare devant le bazar et voit la porte fermée et le panonceau annonçant le départ. Cependant, au milieu de cette tempête, il se sent observé, ressent même la colère et la haine intense qui s'échappent de derrière la vitre. Alors qu'il pense à Gaunt, la voix de la dépression se fait entendre à nouveau, et il récupère la vieille boîte de farce à trappe de son fils. Ce petit lien va lui permettre de faire un lien justement entre cette magie factice et la magie qu'utilise Gaunt. Il arrive à faire taire la voix de la dépression pour la première fois de sa propre volonté. Et il se dit, qu'est-ce qui est le fondement de la magie, bonne comme mauvaise? Faire prendre des vessies pour des lanternes ou donner l'illusion de la guérison comme dans le cas de Polly? Avec sa boîte factice, Alan se sent armé pour aller à la rencontre de Gaunt, peut-être un dernier cadeau posthume de son fils Todd.
Bien sûr.
Alan brise la vitre pour rentrer dans la boutique. À l'intérieur, une épaisse couche de poussière et une odeur de renfermé comme si personne n'avait utilisé cette pièce depuis des années. Sur le comptoir poussiéreux, une télé et un magnétoscope. Un mot de Gaunt à l'intention d'Alan lui fait comprendre qu'il ne voulait pas le rencontrer, mais qu'il a un objet pour lui dont il lui assure qu'il voudra payer le prix. Il lui fait miroiter de savoir comment se sont déroulés les derniers moments de sa femme et son fils. Alan commence à brancher les appareils. Ah, c'est... Tu vois, quasiment jusqu'au bout, je me suis dit, il va pas craquer, Alan. Il va pas craquer.
Il craque pas, en vrai, hein.
Si, il craque
dans le sens, il regarde.
Ah oui, il regarde. Ouais.
Ah oui, d'accord. Ouais, bon.
Ah oui, il regarde et il se fait avoir par les Landes, sur ce point-là.
Oui.
Norris, pendant que Alan est en train de faire les branchements, arrive au bâtiment municipal alors qu'il ne reste que 5 minutes au compteur sous le pont. Il vient chercher des renforts et en chemin croise des types de la télé sortant d'une camionnette jaune. Polly est toujours en... Polly.
J'avais vu comme ça, mais c'est fou en fait.
Non, je crois pas.
Non, ça a aucun rapport. C'est moi qui avait fait en mode. Oh, attends, c'est. Non, pas du tout.
Ouais, là, je t'en pourrais repenser aux crapules de bas étage, mais non, c'est pas.
Ouais, non, c'est pas du tout ça.
Polly est donc en train d'affronter l'immense araignée. Folle de rage d'avoir été manipulée, elle parvient à l'empaler sur un débouche-chiotte. Pour constater qu'il n'y a plus qu'une minuscule araignée.
Elle lui mord pas une patte, un truc comme ça aussi ?
Si, elle lui mord une patte avec les dents, elle arrive à lui casser un truc, elle se fait gicler du sang dessus, enfin bref.
Je vais passer
les détails.
Alors je tiens à dire aussi, dans le côté trash de la bataille de Polly contre l'araignée, c'est que quand elle dit que l'araignée elle se campe sur ses petites pattes arrière pour soutenir l'assaut, ça m'a fait penser à Animal Crossing quand elle essaie d'attraper les tarentules. Elle se campe sur leurs petites pattes aussi, il faut attendre qu'elle repose les pattes avant
pour qu'on fasse un pas en avant.
Complètement, c'est exactement ça.
Mais oui,
t'attaques pas.
Un peu dédramatiser le truc parce que j'imaginais voilà, comment j'attrape les tarentules dans Animal Crossing. Voilà. Je peux continuer.
Donc elle se dit qu'elle doit retrouver Alan et elle pense à aller au bâtiment municipal, mais la voix d'Evie lui indique qu'elle doit chercher ailleurs.
La question que je me posais, par contre, sur l'araignée, c'est je me disais, imaginons qu'elle l'ait jamais ouvert ce truc, est-ce qu'un jour le truc serait sorti de lui-même, de la truc pendant la nuit, tu sais, un truc comme ça, et l'aurait dévoré en fait.
Je pense que c'est probable.
Je déteste cette idée.
Tous les cadeaux de Gaune sont empoisonnés.
Ouais.
Donc il y a forcément un moment, si c'est pas de ton fait, ils vont se retourner contre toi. Polly comprend donc qu'il n'y a qu'un seul endroit où il peut être, et prie pour qu'il n'achète rien.
Ouais.
23e chapitre. Le pont explose dans une gigantesque boule de feu. Cela met un terme temporaire à la guerre sainte de Castle Rock. Mais au moment où Peyton va pour arrêter tout le monde, Nan Robert se met à hurler que les catholiques utilisent de la dynamite et la croisade repart de plus belle. Norris pénètre dans le poste de police quasi déserté. Personne ne sait lui dire où se trouve Alan. Dehors, le pont explose, ce qui les pousse dehors pour constater les dégâts. Les éclairs révèlent à Norris une silhouette familière qui se dirige vers le tribunal. Oh, tiens, c'est Buster. Accompagné de quelqu'un d'autre, il les met en joue et leur ordonne de s'arrêter. Polly conduit difficilement vers le bazar, une douleur profonde dans ses mains et à ce qui semble un peu empoisonnée par la bave et le sang de l'araignée qu'elle a récolté lors de sa bagarre. Alan finit ses branchements et met en route la cassette, malgré les avertissements toujours plus pressants de la voix de Brian Rusk. Mais rien n'y fait, le désir de savoir est trop fort. Il va assister à l'accident, et à son horreur, il voit que c'est Ace Merrill roulant comme un chauffard qui a heurté la voiture de sa femme et provoqué leur mort. Fou de rage, Alan se précipite dans sa voiture alors qu'une nouvelle voix lui indique où trouver Ace, à Mechanic Falls. Norris tient toujours les deux hommes en joue. Le trooper ne comprend rien à la situation. Les premières explosions se font entendre, les bâtiments que les deux couillons ont piégés juste avant. Ce qui permet à Ace de coller une balle à Norris alors que Buster tue le trooper. Norris arrive dans une brume de douleur à blesser Buster avant de s'effondrer. Ace ne peut que constater les dégâts et il est sympa, il achève l'ancien maire. Mais il doit vite s'enfuir car le dernier adjoint du shérif lui tire dessus. Très mal, en passant. Il décide de se rendre au bazar pour se faire payer par Gaunt. Ensuite, il se paiera le shérif. Devant le tribunal, Frank Jewett et George Nelson se rencontrent enfin. Ils s'engueulent sans comprendre réellement de quoi ils parlent, et en plein milieu de la tempête, décident de s'affronter façon Far West sur les marches du tribunal. Au prochain éclair, ils dégainent. Vraiment, ces deux-là, c'est vraiment la fin, juste pour le plaisir. Parce que vraiment, ils n'ont plus aucun intérêt dans l'histoire. Et au final, ils n'en ont jamais trop eu. Mais ça m'a éclaté quand même.
Ils sont rigolos.
Leur ridicule est impressionnant. Polly manque de mourir à cause des shrapnels d'une des explosions. Parvenue devant le bazar, elle voit Alan s'en éloigner, l'air déterminé, et elle comprend qu'il est sous l'emprise de Gaunt. Elle se lance à sa poursuite. Le vieil adjoint aide Norris à se redresser. Celui-ci veut absolument aller au bazar et oblige son pote à l'emmener à sa voiture malgré sa blessure. Alan manque d'écraser Polly sans la reconnaître. Celle-ci réussit à s'agripper à une poignée de porte et à l'ouvrir. Elle réussit à percer un peu le brouillard pour parler à Alan et lui montrer qu'elle n'a plus l'ASCA. Mais il est obnubilé par sa vengeance contre Ace Merrill. Polly comprend enfin ce que lui a vendu Gaunt, les circonstances de la mort de sa femme et de son fils, et elle essaye maintenant de le convaincre que Gaunt est un menteur. Alors qu'elle avait presque réussi à traverser ce brouillard empoisonné, Ace Merrill se saisit d'elle et pointe un pistolet sur sa tête. Un éclair frappe enfin. Et Frank et George se tirent dessus. Tellement bien que les deux balles se dévient et les frôlent seulement, mettant fin à cette querelle. Et au moment où ils vont se tomber dans les bras, le bâtiment explose et les vaporise.
Ils sont parfaits. Ils sont parfaits.
Ils sont jusqu'au bout.
Des losers parfaits jusqu'au bout.
L'explosion est si intense que le sol en tremble sur plusieurs centaines de mètres à la ronde. La lueur est si forte qu'on dirait la fin du monde. La croisade se termine avec cette explosion. On apprend que Sally s'est suicidée en apprenant la mort de Lester, et son bout de bois pourri laisse échapper une vague d'insectes. Norris et son pote sentent le souffle de l'explosion, et Même si la blessure ne semble pas fatale, et même si la blessure ne semble pas fatale, il se sent mourant. Ils approchent du bazar des rêves et Norris fait s'arrêter son pote alors qu'il met en joue Ace Merrill, attendant l'occasion de tirer. Il est tellement concentré qu'il ne voit pas les Landgone sortir de sa boutique et s'avancer vers les trois autres personnes. Alan a senti qu'il a retrouvé un peu un bout de sa santé mentale, alors qu'Ace l'accuse du vol du pognon. Il a aussi aperçu du coin de l'œil la voiture de police arrêtée. En faisant tout son possible pour ne pas la voir, il remarque les Landgaunt, mallette chelou à la main et grand manteau de voyage sur le dos en train de quitter la boutique. Une lueur d'irritation, voire d'inquiétude dans ses yeux. Alan est persuadé qu'il ne sait pas encore qu'il a été vu. Il explique à Polly comment il a su que Gaunt avait menti. La ceinture attachée dans la vidéo, alors que dans la réalité, sa femme ne l'avait pas. Cela lui donne le temps nécessaire à se décider qui attaquer.
En fait, c'est marrant parce que du coup, je me suis demandé si à chaque fois que les Landes devaient faire quelque chose pour faire croire aux gens un truc, il ne devait pas toujours avoir une erreur, en fait, une forme d'échappatoire obligatoire, tu vois.
Pas une contrefaçon, mais un défaut de fabrication.
Obligatoire. Ouais. Le truc qui te dit, si tu fais attention, tu vois que c'est faux, en fait.
Ouais, il y en a sur chacun.
Et en fait, c'est ma boule parce que là, tu le vois en pleine gueule parce qu'Alan, il l'analyse, tu vois, il est vraiment bien. Mais du coup, c'est trop bien ce truc de je sais pas comment expliquer, c'est vraiment ce pacte avec le diable qui dit que t'as une petite ligne qui déconne, quoi, tu vois, mais tu la regardes jamais, tu t'en fous parce que t'es content de ce pacte.
Ou alors tu veux pas la voir.
Oui, voilà, tu t'empêches de la voir alors que tu l'as peut-être vue, mais non, c'est faux. Tu sais, c'est vraiment ce truc de je sais pas comment expliquer ça.
C'est on se berce nous-mêmes d'illusions, quoi, vraiment.
Ouais,
c'est,
ouais.
Il utilise ça pour nous endormir, pour nous faire payer des choses qu'on voudrait pas accepter en temps normal.
Ouais, mais
oui, même c'est le pacte, comme tu dis, le pacte avec le diable, où genre, je suis obligé de te laisser une chance parce que légalement, je suis obligé de te laisser une chance, mais tu refuses de l'avoir.
Et je sais pas si ça vous est déjà arrivé d'acheter un truc ou d'acquérir un truc que vous vouliez depuis fort, fort longtemps d'un truc et de remarquer un défaut, mais vous le mettez de côté naturellement, en disant non, mais c'est vraiment. Je sais pas comment expliquer ça. T'achètes une nouvelle voiture, il y a un tout petit pet. Tu dis non, mais c'est franchement non, elle est parfaite.
On se trouve des excuses.
Ouais. T'essayes de pas le voir. Non, c'est normal.
C'est trop. Ouais, je vois la sensation. J'ai pas d'exemple en tête, mais je vois tout à fait. Ouais. La sensation.
Moi, j'ai une carte magique que j'ai achetée comme ça qui vaut cher et je sais qu'elle a un défaut, mais elle est parfaite telle qu'elle est. Mais elle a un défaut, mais elle est parfaite. <tu vois.
rire> C'est quoi comme carte?
Le Land du Nord ou pas?
Non, les gars, j'ai pas 90 000 balles dans une carte, vous êtes fous.
Non, c'est un petit marais, quoi.
Wow, c'est un bilan de. C'est
ouf. En honneur.
Trop nul, de façon marais.
Où est-ce qu'on en était? Ah oui, donc, à la surprise générale, Alan lance la boîte de farce attrape, enfin, utilise la boîte de farce attrape pour lancer le serpent en papier qu'elle contient vers Gaunt.
Bien sûr.
Sauf que cette fois, lui-même y croit très fort, le serpent est bien réel, d'une taille plus que respectable, et il parvient à mordre Gaunt plusieurs fois.
Si vous écoutez la 19e palabre, je refais le lien avec ma théorie de la magie sur l'entre-deux-mondes. Voilà, c'est exactement ça.
C'est ça. Tout est question de volonté.
La question de la volonté, tu imposes ta volonté à l'autre, et c'est comme ça que ça marche. La magie, ça fonctionne comme ça chez eux.
C'est un truc de mascu, la magie, en fait.
Bah, c'est Roland
en une phrase.
Ou Alan.
Ouais, un petit peu. Donc Alan en profite pour piquer l'étrange mallette dont il soupçonne qu'elle contient toutes les âmes volées. L'élan de Gaunt est foudrage et il veut récupérer son bien. Il a beau nous dire plusieurs fois, il l'a dit aux habitants, que les âmes ils s'en foutaient. A priori non.
On sait pas ce qu'il en fait par contre.
Non.
Je pense pour une guirlande de Noël.
Non, je pense que les bois, c'est ce qui donne sa vie en fait.
Ah, je suis même pas sûr. Hein. Pour moi, je pense qu'il en a une utilisation futile. Limite une collection, quoi. Regarde, j'en ai plus que toi.
Ah, je sais pas.
Hein. Est-ce qu'il lui faut des âmes pour survivre? C'est une bonne question.
Ouais, moi je dirais que c'est un truc de survie, mais.
Tu vois, l'épilogue nous dira que je suis pas convaincu qu'il en ait besoin.
Ouais, bon,
oui. Oui.
Polly profite de la confusion pour mordre au sang, mais Ace qui la repousse et se prend une balle de Norris, toujours en embuscade. Gaunt essaye maintenant de négocier avec Alan pour récupérer son bien, mais il n'a pas l'intention de lui laisser. Même s'il ne peut probablement pas battre la créature, il peut lui faire quitter les lieux, il en est sûr. Pour motiver Gaunt, épris d'un instinct qu'il ne souhaite pas analyser, Il utilise le phare de sa voiture pour faire un jeu d'ombre avec sa main, en forme d'oiseau d'abord qui prend vie géant sur la façade du bâtiment, puis la forme d'un gros chien. Ses artifices ont un impact réel sur Gon qui se recroqueville sur lui-même et accepte de partir, mais se transforme complètement en démon pour se jeter sur Alan.
Ouais. Il est quand même pas ouf, celui-ci. Ce méchant. Hein. Je veux dire, se faire battre par des ombres chinoises.
C'est pas un combattant, en fait. C'est vraiment c'est un beau parleur.
Ouais. Ouais, c'est un charlatan total.
Ouais, c'est pour ça qu'il essayait de sortir en secret en évitant le combat. On est d'accord que le gros chien, c'est une référence à Cujo encore, non?
Ouais, je pense que ça remet une petite...
Parce qu'il parlait vraiment d'un très gros chien.
Il y a moyen, quoi.
Donc, Alan a un dernier atout dans sa manche, littéralement. Et il fait apparaître le bouquet de fleurs en papier qu'il a montré à Sean. Sauf que cette fois, des rayons de lumière sortent du bouquet. Et Alan sent venir la blancheur avec un grand...
Bien sûr.
Un B majuscule. Ces rayons lumineux blessent la créature gontesque et, envahi d'une énergie mystique, Alan la bannit. Alors que le bazar explose littéralement. Il libère les âmes prisonnières, la lumière est perçue dans toute la ville, guérit l'empoisonnement de Polly ainsi que celui de Norris, et partout dans Castle Rock, les habitants lâchent leurs armes et ont l'air de se réveiller d'un cauchemar. La pluie cesse.
Incroyable.
La chose Gaunt... Pardon ?
Incroyable.
Non mais j'aime bien la référence, c'est quasi biblique, mais c'est la référence de quand tu as plus ton âme, tu n'es plus qu'un animal en fait. C'est la différenciation entre là, les animaux et les humains. En fait, c'est
tu crois qu'il avait les âmes des personnes vivantes encore ?
Oui, je pense. En fait, c'est ce qu'il capture. Il capture les âmes des gens, en fait. Et du coup,
je pensais que c'était juste le maléfice qui se rompait, mais putain, c'est vachement plus intéressant comme ça, en fait.
Ah, je le vois comme ça, moi.
Trop bien.
Du coup, les hommes, enfin, les humains n'ont plus d'âme, du coup, ils deviennent juste des animaux, en fait.
Mm. C'est pas mal, j'aime bien.
Merci.
Régis que par leurs instincts.
Ouais.
La chose Gaunt donc bondit vers sa Tucker et démarre dans un bruit d'enfer, littéralement. Mmh. En se dirigeant vers la sortie de la ville, la voiture démoniaque se transforme progressivement en chariot de médecin itinérant tiré par un cheval noir, un petit homme bossu assurant la conduite. Ils finissent par quitter la route, par s'envoler et disparaître dans les nuages.
Et qu'est-ce qui a marqué derrière ?
De quoi ?
Qu'est-ce qui a marqué au cul de la voiture ?
Caveat emptor.
Joyeux Noël.
Non. Ah oui, putain, je l'ai noté, j'ai pas eu le temps de. Je sais plus ce que ça voulait dire en
latin. Quand j'ai lu le bouquin, j'étais au collège, j'étais en 3e, je pense, 4e, 3e. Et j'étais allé voir ma prof de français, parce que c'était du latin, et je savais pas ce que. Et je lui avais demandé, et elle avait regardé chez elle et tout, et elle m'a dit c'est marqué, enfin, c'est acheteur, faites attention.
Ah.
Je trouvais ça ironique de ouf, c'est parfait en fait.
C'est parfait, j'avoue.
Emptor, let the buyer beware.
Que l'acheteur soit vigilant.
Par contre, toute la transformation de Gaunt, je suis fatiguée aussi, mais je l'ai lu, relu et re-relu, ça m'a fait l'effet d'une description de Lovecraft, genre tu lis trois fois et t'as toujours pas compris à quoi ressemble le truc.
C'est parfait.
Ouais, il y a plein de formes différentes.
Pour le coup, je préfère largement la fin dans le film, mais c'est perso quoi.
Je l'ai pas encore revu.
J'ai hâte pour le prochain épisode, parce que ça c'est un des rares que j'ai, qui me manque encore à ma collection.
Il a un très beau casting, le film.
Donc, alors le casting, ouais. Les quatre compères se rassemblent près de la voiture et s'avouent chacun leur faute. Il faudra qu'ils apprennent à vivre avec. Ils doivent maintenant filer à l'hôpital pour Norris et Alan veut aussi vérifier que Sean va bien. Peyton, le flic d'État, arrive en ne comprenant rien à la situation, mais Alan lui dit que ses questions attendront demain. En route vers l'hôpital, Alan se retourne pour contempler la ville. C'était la sienne, mais plus maintenant. Il avoue enfin à Polly qu'il ne veut plus savoir ce qui est arrivé à sa femme et son fils et il n'en a plus besoin.
Ah, il peut...
Petit épilogue à Junction City dans l'Iowa, alors qu'une nouvelle boutique va ouvrir. Prières exaucées. The end. Donc
avec
là, c'est
la
ce
même
passage-là qui me fait me dire que Gaunt, il n'a pas forcément besoin des âmes, c'est juste, ça fait partie de sa nature.
Est-ce qu'il n'a pas rouvert justement cyclique, rapidement parce qu'il n'a pas pu avoir les âmes et qu'il a rouvert rapidement dans une autre ville ?
Peut-être.
Ouais, peut-être. En vrai, je pense que c'est la collection aussi. Je vois le démon qui collectionne, qui se nourrit des âmes, mais je suis pas persuadé que ce soit la même chose.
Et l'épilogue est basé sur l'intro aussi. Exactement la même manière de raconter que l'intro.
Oui, c'est
même tournure et tout. C'est beau.
Parce que
il
y a un passage dans cette deuxième partie qu'on a lu où il dit que pourquoi il prend les armes. Parce que. Enfin, tu vois, il n'y a pas de raison. Je me rappelle de ça à un moment où.
Hashtag ta gueule, c'est magique.
Ouais.
Mais ça pour le coup, c'est
Fun,
ça il le dit plusieurs fois, mais tu vois quand Alan lui vole ses âmes, il y a l'air attaché, il a l'air quand même d'en avoir soit besoin, soit une très forte envie. C'est pas juste parce qu'il peut le faire.
Je pense que c'est son truc à lui, dans le sens, il a eu un deal en fait. Donc ses âmes, elles sont à lui en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est en fait, il les a achetées. Mmh. Et il y a un truc très, je vais pas dire très américain, mais très classique de, en fait, non, mais en fait, ça c'est à moi. Je suis désolé, j'ai fait ce qu'il fallait pour les avoir. Tu vois.
J'ai travaillé dur pendant
une
semaine.
Transaction.
C'est exactement ça.
Il faut noter aussi que tout est parti en turbo couille en une semaine.
Ouais, c'est parfait, ouais. Putain. Du lundi au dimanche, vraiment... c'est trop bien.
En 7 jours.
En 7 jours.
Mais tu sais que si on arrête d'alimenter les stations-service, en une semaine aussi, c'est la merde noir.
Ouais. Bah, c'est le cas de la grande grève qui a eu dans les années 90.
Au UK.
En France.
Bah, même les supermarchés.
Au UK aussi, ouais.
Les supermarchés, si on arrête de les alimenter.
Ouais. Ouais, trop bien.
Petite dernière remarque, moi cet épilogue m'a fait un peu penser à la fin du fléau, quand Randall Flagg meurt et puis qu'il réapparaît
sur une autre île, enfin une île, enfin on sait pas, mais ouais, dans une autre.
On sait pas, ouais, en tout cas dans un autre.
Autre
part, probablement un autre continent, ou peut-être une autre étage de la tour, on sait pas, mais reparti pour un tour.
Yes.
Et du coup, la question de qui est Gaunt, elle est incroyable, quoi. Vraiment, ce truc de chrétien, enfin catholique dans le sens démon à enfer paradis, quoi. Mais il y a vraiment ce truc de je sais pas, c'est plus organique que ça en fait, tu vois.
Ouais, parce que si tu écoutes bien ce qu'il raconte, il était là bien avant que la religion catholique commence.
Voilà, c'est vraiment du
l'incarnation du mal sur terre depuis que l'humanité a commencé à dire des trucs,
ouais. Et qui a compris comment fonctionnait les humains pour pouvoir s'en servir, en fait.
J'ai regardé le trailer du film parce que j'ai regardé le trailer quand même. Il disait à un moment donné, tu vois, Leland Gaunt qui dit, j'ai connu Jésus de Nazareth, un garçon très prometteur.
Ouais. j'adore quand ça fait, c'est un truc qui me rend fou quand dans les films ou les bouquins ou les trucs comme ça, il y a une référence à des événements dont on ne sait pas vraiment s'ils sont passés, mais qui les incrisent en histoire. Je trouve ça trop intéressant, putain.
Ouais.
En tout cas, on est arrivé au bout pour cet épisode, je pense. Ouh. Il va nous rester.
Il y a une référence qui fera plaisir aux fans de Lovecraft, parce que moi, je connais pas cette créature. Mais il y a une théorie qui dit que ça serait un Nyarlathotep.
Oh, Nyarlathotep.
Ça serait Nyarlathotep. Ouais. Et Antotep, c'est le messager des grands anciens. C'est celui qui fait le messager entre tous les grands anciens, mais il est aussi celui qui prend les différentes formes, en fait. Il est à la fois le dieu et le messager des dieux.
Alors, j'ai un doute parce qu'on en a parlé dans la première partie, mais je crois que c'est Nyarlathotep qui est mentionné directement par nom sur un.
Non, c'est Yoxotot.
Yoxotot, oui.
Ah, c'est Yoxotot. Ah, tu vois, je savais plus.
High five. Non, c'est Yoxotot. Yoxotot qui est un grand ancien pour le coup.
Mention spéciale à Nyarlathotep qui est un tentacule avec des jambes.
Ouais. qui est pas que ça, hein, qui est aussi un grand pharaon, qui est aussi.
Ouais, non,
il a plein de formes, mais moi ça me fait toujours halluciner quand les gens essayent de dessiner des trucs que Lovecraft décrit.
Ouais. T'as jamais vu les mecs qui avaient dessiné les anges décrits dans la Bible?
Oui.
Si,
Biblically accurate angels, incroyable.
Ah, c'est
l'espèce de l'œil géant avec les ailes bizarres et tous les yeux partout.
Oui, des anneaux d'yeux autour et qui dit okay. Be not afraid.
Ok. Vraiment, moi je vois ça, je pense pas que c'est Dieu. Hein. Je crois pas une seconde.
Non, mais genre t'as envie de crever les yeux, mais alors tu commences par lequel?
Mais du coup, ce qui est marrant, parce que pour ceux qui ont vu Evangelion, c'est vraiment, il y a des représentations qui sont assez proches des anges. Et c'est parfait. Ceci bouclant cela.
Ah. Ça va, grand Paul?
Oui, ça va. Je respire un peu et j'ai oublié de prendre. Si,
vas-y. On doit faire les questions des auditeurs ou pas?
Non, je crois que c'est pour la fin.
Ouais.
Non, on fera tout, toutes les chroniques d'Ab. Supplémentaire au prochain épisode.
Eh ben, un épisode qui dure pas trop longtemps.
Ah, une heure et demie quand même.
Des fois, ça fait pas de mal, une petite heure et demie pour ça, c'est bien.
Mais du coup, attends, je reviens sur la théorie de Nyarlathotep. En fait, je suis pas d'accord du tout, en fait. Hein.
Alors, moi, je te dis ce que je lis sur stephenking.fandom.com. Donc, une source de qualité, bien sûr.
Évidemment.
Même si Gaunt est hanté par le diable lui-même dans le film, la possibilité qu'il soit un Nyarlathotep peut-être valide ici car Nyarlathotep himself est basiquement connu comme l'équivalent du diable dans Cthulhu
Mythos. C'est très réducteur.
Ouais, c'est vachement réducteur. Ouais, hein.
C'est trop simpliste.
En fait, il y a une des formes de Nyarlathotep qui fait référence à Gaunt dans le sens c'est l'homme qui fait des contrats ou c'est l'homme qui fait des marchés en fait. Mais c'est une de ses formes. C'est pas. Mais du coup, ça peut marcher dans ce sens. C'est l'homme en noir en fait. Il est littéralement l'homme en noir. C'est comme ça qu'il est appelé en fait. Donc ça peut marcher dans ce sens-là, mais c'est tiré par les cheveux. Non, je suis pas d'accord.
Eh ben, laissez un commentaire sur Spotify. Voilà.
Avec 5 étoiles.
Évidemment, ça c'est la base, sinon on ne le lit pas. Bah, du coup, on peut conclure ou pas?
Ouais.
On peut conclure, je pense qu'on est bien là.
Alors, premièrement, le prochain épisode, on va parler du film. Je crois qu'il n'y en a qu'un, donc on ne peut pas se tromper.
Il n'y en a qu'un.
Il a un casting de malade.
Baboul. Ed Harris.
Ed Harris, avec ça.
Incroyable. Comment il s'appelle, celui qui fait le Land Gaunt, il est incroyable aussi.
Max von
Sydow.
Ouais, voilà, c'est ça.
Tellement ouf. De voix, putain. Oh, le mec.
Ouais, le film s'appelle Le Bazar de l'Épouvante.
C'est ça.
Ou titre québécois, L'Inconnu de Castle Rock.
Ah, ça marche bien. Ça marche tellement bien.
Mais pourquoi d'habitude ils traduisent mot pour mot les titres anglais et dans le titre anglais, c'est Needful Things.
D'ailleurs, c'est marrant parce que l'affiche en anglais, c'est Buy Now, Pay Later.
Tellement bien. Ça marche bien. Ça marche trop bien. Tous les titres là, ils sont trop bien.
Donc, regardez-le, comme ça vous pourrez écouter l'épisode qui parlera de ça. Et ça sera le troisième et dernier épisode sur Bazar.
Oui.
Zéphiriel,
oui.
Où peut-on te retrouver?
C'est un chez moi.
Alors, autrement.
Incroyable réponse.
Le défaussé, je parle de jeux de société, et la 19e palabre pour pas me faire engueuler. Donc,
le défaussé, ça s'écrit. D E plus loin
fossé
F A U 2 S E
exactement parce que c'est un D qui est faussé. Tu vois ou pas, on triche.
Elle est un peu plus raffinée donc
je est-ce que je dois réellement dire que je t'en hein
non je t'ai entendu émettre
oui j'ai rigolé en plus
voilà
je
pense satisfait.
Oui. Julien, il essaye de monter les invités contre moi. Alors, regarde-le un peu, là.
Ça marche pas. Et voilà. Merci.
Eh ben, merci à toi. Et du coup, tu seras encore là dans le prochain épisode.
Ouais, carrément. C'est avec plaisir. Film, je crois que c'est un des meilleurs films de King, hein, d'adaptation King.
On l'a vu.
J'en ai un souvenir incroyable. Vraiment.
Je pense qu'il va mériter une échelle de Carrie.
Ouais, on va ressortir l'échelle de Carrie pour ça. Et du coup, Grand Poil, Dulca, merci.
Mais de rien.
D'avoir été toujours là. Un plaisir.
On embrasse Émeric et Émilie qui devraient être là pour le prochain épisode. Et on se retrouve dans un mois. Et on rappelle que Le Roi Stéphane est un podcast du label Podcut et que vous pouvez venir sur Discord discuter avec nous de ça et les autres podcasts du label. Et vous pouvez aller sur podcut.studio pour voir les autres podcasts de la grille, comme on le dit. Et que si vous voulez nous soutenir, on a un Patreon, patreon.com/podcast. Là, je crois que j'ai vraiment tout.
Podcut.
Ouais, slash podcut, c'est mieux.
Ouais, c'est mieux si tu donnes la bonne adresse.
Ouais.
Est-ce que ça existe, patreon.com/podcast slash podcast. Est-ce que ça tombe sur quelque chose ou pas? Eh ben non, il y a un Marc Dieter. Qui ne soutient aucun créateur. Bouh! Il a un compte, c'est même pas il paye. Incroyable. Je lance le générique parce que je sais pas comment clôturer cet épisode.
Très bien.
On dit au revoir tout le monde.
À dans un mois.
Au revoir tout le monde.
Longue et vos nuits plaisantes.
Par exemple.
Et le double du compte pour toi.
Salut, c'est Emily. Merci pour votre écoute de cet épisode du Roi Steven. Si vous aimez King et que son actualité vous intéresse, je vous propose d'écouter également la Gazette du Maine. C'est le podcast que je fais et dans lequel je vous tiens au courant de ce qui va être publié, des dernières informations sur ce qui est en cours d'adaptation, de ses nouvelles interviews ou des autres sujets qu'il concerne, deux fois par mois, en moins de 10 minutes. La Gazette du Maine est disponible sur toutes les plateformes, alors je vous dis à bientôt, j'espère. Que vos journées soient longues et vos nuits plaisantes.
Ça, c'est une première chose.
Pas de Twitch, tout le monde a testé sa piste.
Ah, non, parce que j'ai oublié de lancer Audacity.
Là, faut que je vous poste d'avant. Desktop, t'es où desktop? Tac.
On a reperdu ta cam, Dulka, c'est normal?
Moi, c'est normal, je l'ai enlevé.
Ah oui, parce que je comprends.
Fais gaffe, le flic va m'arriver.
Oh, ouais.
T'as vu, ça, t'as vu, t'es capable aussi, Zef.
Ouais. Vous m'avez perdu là.
Bah, t'as non, c'est ta cam qui est partie.
Ouais.
Parce que cam, c'est aussi de la drogue. Tu l'as, ah, ouais. La police, drogue.
Ouais, j'ai compris. Vous êtes parti trop loin d'un coup là.
Ouais, elle sais. Comprend vite, mais il faut expliquer longtemps, je crois.
Non, j'ai un sens de l'humour un peu élitiste, tu vois, les trucs de merde, ça passe pas, c'est pour ça que j'ai un peu du mal avec toi des fois.
Ah, ah la snob. Oh, la snob.
J'avoue, c'était pas ma meilleure défense.
ça va être ambiance ce soir, vous êtes chaud là, vous êtes chauffé là.
Toujours.
La lutte des classes et tout, terrible.
Ouais, macroniste.
CPC, hein.
Tu sais que tu dis ça comme une insulte, mais moi, ça va, hein.
Bah, c'est une insulte dans le langage courant.
Non.
Alors, je fais la présentation jus. SD.
Ok.
Attendez, on lance Audacity maintenant.
Ouais, vous pouvez lancer autre justement.
Ok.
J'ai lancé chez moi.
C'est lancé.
Je vais ouvrir le conducteur. Ouais. Où il n'y a même pas de conducteur. S'il y a un conducteur.
Alors là, vous lancez l'enregistrement. Oui. C'est-à-dire que là, je peux commencer à enregistrer, ça.
Oui,
tu peux commencer à enregistrer, tout à fait. Ouais. On n'a pas clapé encore. Et le conducteur, il est très simpliste. Hein. On fait la deuxième partie du résumé. Donc,
ça marche.
On s'est arrêté au DU 22, hein, c'est ça?
Non.
Non, au 16. On s'est arrêté au 16.
Ouais. Mais bon, après, ça veut dire que tu avais lu les bonnes choses, donc c'était pas grave.
Oui, non, mais c'est pas comme si je le connaissais pas par cœur de base. Mais...
Roi Steven. Yes. Je lance le générique pour nous mettre dans l'ambiance.
Allez.
Un petit clap.
Allez, 1, 2, 3, clap dans tes mains.
Et il n'y en a que deux qui étaient
là. Ah merde, putain, désolé. Je...
Allez, à 3, on reclappe. 1, 2, 3. Ça clap.
Du cas, elle n'a pas clapé.
Si, mais mon micro a peut-être coupé le son.
Ouais.
Mais ça a clapé sur Audacity parce que j'ai clapé fort près du micro.
Will full coverage make me look cakey? Is my undertone neutral or is it cool? We get it. Finding the right foundation is hard. But with Il Makiage, it's easy to find your perfect match online. Customize for your unique skin tone and coverage needs. Plus, with Try Before You Buy, you can try your full size at home for 14 days. With over 600,000 five-star reviews, this best-selling foundation is going viral for a reason. Take the Power Match quiz now at ilmakiage.com/quiz. ilmakiage.com/quiz.